Bienvenue dans le Paris Central Show, le podcast 100% Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va parler de peut-être la fin de la suprématie du Paris Saint-Germain sur la Ligue 1, avec peut-être les Saoudiens qui se dirigent vers Monaco. Est-ce que ça changera quelque chose? Est-ce que ça rajoutera de l'excitation à la Ligue 1? Peut-être que ça retirera la pression de la Ligue des Champions, parce qu'on aura peut-être quelque chose en suspens toute la saison pour savoir est-ce qu'on va la gagner ou pas. Et du coup, ça ramènera de l'affectif vers la Ligue 1 qui, pour l'instant, chaque année, on a l'impression que c'est la Coupe de France qu'on a gagnée. Donc, les gars, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vas-y, tonton, je t'écoute.
Honnêtement, un peu du mal à y croire, dans le sens où tant que tu ne peux pas, selon l'UEFA, être propriétaire de plusieurs clubs qui s'engagent dans les compétitions européennes, en sachant que les Saouds ont déjà comme propriété Newcastle, ça me semble compliqué qu'ils prennent un autre club et que ce club soit lui aussi concurrent en Ligue des Champions. Il y a aussi le même problème avec Gérone du groupe de Manchester City en Espagne. Il y a eu justement Leipzig qui a dû se détacher du Red Bull et se faire appeler Rasenball pour pouvoir participer aux compétitions en même temps que le Red Bull Salzbourg. Donc sauf si tu as éventuellement une loi qui est mise à jour et qu'à ce moment-là, tu as le droit à la multipropriété, peut-être qu'à ce moment-là, oui, Newcastle pourrait être une propriété des Saouds et que les Saouds se dirigent ensuite vers la Ligue 1 avec un club qui pourrait justement modeler totalement à son image. Après, si tu me parles d'intérêt vis-à-vis de la Ligue 1, ça relancerait totalement la Ligue 1 dans le sens où le PSG n'a jamais de concurrents qui sont les mêmes deux saisons de suite. L'année dernière, c'était Lens, cette saison, c'est Nice. La saison prochaine, on sait très bien que Nice ne tiendra pas le cap. Et avoir peut-être un concurrent qui est régulier, je pense que ça pourrait sûrement être la meilleure chose pour le Paris Saint-Germain, si ça peut se faire en tout cas.
Oui, mais en fait, ce que tu dis, je suis d'accord pour la multipropriété, mais on a bien vu que, par exemple, le Qatar, ils ont créé quelque chose qui a fait qu'ils auraient pu acheter Manchester United. Donc, c'est pas forcément le PIF qui peut acheter Monaco, ça peut être d'autres personnes qui sont proches du PIF qui vont l'acheter sous une autre entité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et toi, Ricoba, est-ce que tu serais content de cette nouvelle? Parce que moi, personnellement, je pense être content parce que je voulais surtout pas qu'ils rachètent le club de rats. Mais un PSG Monaco comme les années 1980, fin d'année 90, où les deux équipes elles étaient plutôt au top, qu'est-ce que tu penses de ça?
Non, mais pour moi, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose, mais même si des Saoudiens rachètent finalement l'OM, pour moi, ce serait une bonne chose aussi.
Non,
ça ferait
pas dire ça.
Une vraie concurrence. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il faut
une vraie concurrence, mais pas avec les rats. Les rats, on veut qu'ils aillent en Ligue 2.
Non, moi, je leur souhaite pas la Ligue 2. À un moment donné, le PSG Marseille, il a quand même une saveur et ces dernières années, on l'a perdu. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait un repreneur aussi côté OM. En tout cas, pour ce qui est de Monaco, pour moi, ce serait évidemment une bonne chose parce qu'on le voit encore là en Europe. Les clubs français se sont lamentablement écrasés. Et à un moment donné, on tape beaucoup sur la Ligue 1. Mais je trouve qu'à la différence du coup, de ces locomotives-là de Marseille, de Monaco, les petits clubs, justement, je trouve qu'ils travaillent de mieux en mieux et eux ont augmenté leur niveau. Il y a une vraie Ligue 1 qui s'est homogénéisée, je trouve. Et c'est grâce justement à ces petits clubs qui travaillent de mieux en mieux, qui sortent de très bons joueurs, qui font de bons transferts avec peu de budget et peu de moyens. Et au final, je trouve que ces clubs-là ont haussé le niveau et ce qui a permis à la Ligue 1 d'avoir aujourd'hui, je trouve, un meilleur niveau, plus de jeux, plus de buts. Mais le vrai problème de cette Ligue 1, c'est surtout les grosses locomotives qui ont vraiment, eux, baissé de niveau, qui font, au niveau de leur gestion, qui font n'importe quoi. Monaco vend toujours ses meilleurs joueurs. Lyon a fait n'importe quoi ces dernières années. On a vu Bordeaux descendre, on a vu Saint-Etienne aussi. Donc, on a l'OM qui, on ne sait pas trop. Une saison, c'est cinquième, une saison, c'est deuxième, une saison, c'est dixième. Donc, à un moment donné, oui, il va falloir qu'il y ait des racheteurs potentiels qui ramènent un vrai projet parce qu'on a pu voir quand même à Nice avec Ineos, ça bat de l'aile depuis un petit temps quand même. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal qu'il y ait un riche qui reprenne Monaco. Mais pour comme l'a dit Tonton, faire quelque chose quand même de cohérent parce que des projets et de l'argent, on en a vu. Et pour autant, ça, derrière, ça n'a pas forcément donné grand-chose. Donc, j'espère qu'il y aura quelque chose de sérieux et ça ne peut que faire du bien à la Ligue 1, forcément. Maintenant, je vais ouvrir à mon chat parce que monsieur, il n'est pas content.
Tu as coupé ton micro, Nix.
Juste pour répondre à Geoffrey, oui, la question, elle est très sérieuse parce que je ne sais pas si vous regardiez le football dans les années 2000. Tu poses cette question, la septième année du septième titre de l'OL, je pense que les supporters OL posent la même question que toi. C'est pas parce que tu es au sommet que tu vas toujours être au sommet. Et moi, je pense que si les Saoudiens ils devaient acheter un club pour en faire quelque chose de très haut niveau, il n'y a pas mieux que Monaco. Parce que Monaco, c'est quand même le club. Je pense que si tu regardes avec le Paris Saint-Germain depuis les années 2000, je pense qu'ils font autant de demi-finales et de finales que nous, européennes. Et ils n'avaient pas notre budget. Ils n'avaient pas notre effectif. Donc moi, je pense que c'est un club, déjà, niveau formation, ils sont très bien. Niveau club, prestige, ville, tout ça. Ça peut vraiment attirer. En plus, les salaires, il n'y a pas d'impôts là-bas. Ils peuvent ramener des joueurs de fou malade. Pour moi, je pense qu'il faut pas trop se dire qu'on va gagner la Ligue 1 pendant les 10 prochaines années s'il y a ce projet qui arrive. Moi, j'espère que ça va être le cas, mais on peut se dire que ça va en fait peut-être créer enfin une locomotive qui peut nous aider à encore être encore meilleur en Ligue des Champions. Je t'écoute, tonton.
Pas tout à fait d'accord là-dessus, dans le sens où on parle beaucoup comme si le PSG était le seul club de Ligue 1 qui avait un propriétaire milliardaire et que tous les autres étaient des clubs qui dépendaient des subventions de la mairie et des collectivités locales. Il faut rappeler quand même qu'il y a M. Pinault qui est à la tête de Rennes, il faut rappeler qu'il y a M. Radcliffe qui est à la tête de Nice, il faut rappeler que l'OM, malgré qu'ils n'ont pas les moyens du Qatar, ils ont un milliardaire au nom de Franck McCourt à leur tête. Monaco a un milliardaire en la personne de Dimitri Ribolovlev. Moi, je trouve qu'à un moment, il faut arrêter cette excuse de les clubs de Ligue 1 ont besoin d'un vrai propriétaire plein de thunes et que le PSG a besoin d'une vraie locomotive en Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Je peux te démonter ces deux exemples en un éclair de temps, dans le sens où le Bayern n'a aucune concurrence en Bundesliga depuis plus de 10 ans. Ça ne les a pas empêchés de soulever l'Europe plusieurs fois. Donc, à un moment, c'est au PSG aussi de se mettre à niveau. Et concernant les autres, oui, tu peux encore amener un propriétaire avec des thunes, mais tu vas voir que ce propriétaire en question, ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent du Qatar, que forcément, c'est plus compliqué de concurrencer face au Qatar.
On parle des Saoudiens. On parle des Saoudiens, alors on ne parle pas des Américains.
McCourt, c'est quoi? McCourt, c'est peut-être un mec qui fait la manche. Pinault aussi, Radcliffe aussi. Radcliffe, c'est la première fortune anglaise quand même. Et moi, à un moment, je trouve qu'on est beaucoup trop sympa avec les autres clubs de Ligue 1. Et je pense qu'on va y revenir plus tard quand on parlera de la Ligue Europa et des compétitions européennes de cette semaine. Moi, je trouve qu'on est beaucoup trop sympa avec les clubs de Ligue 1 qui ont des moyens, mine de rien, et nous font croire l'inverse. Et malgré ça, ne sont pas capables de tenir des résultats. Donc, oui, ce serait bien que les Saouds arrivent à Monaco. Mais est-ce qu'ils vont gérer Monaco de la même manière qu'ils gèrent Newcastle? Ou est-ce qu'ils vont faire un vrai projet, tu vois, qui va durer dans le temps? Parce que Newcastle, ça commence déjà à s'essouffler, mine de rien.
Mais les gars, il y a milliardaires et milliardaires. je pense, le pif, les Saoudiens, s'ils arrivent, ça ne va pas être avec la même force que Franck McCourt, il est arrivé dans la Ligue 1. Ça ne va pas être la même force que. Ça va être comme le Qatar, il est arrivé en Ligue 1. Ça va être des transferts de fou. Parce que normalement, quand tu arrives et que tu investis dans un club, je crois qu'il y a un moment, la première année, où tu peux acheter en fonction de ce que tu as mis dans le club quand tu l'as acheté. Tu peux mettre des fonds dedans. Donc, moi, je pense que Franck McCourt versus les Saoudiens, il n'y a pas photo. Moi, s'ils vont à Monaco, surtout avec les salaires qu'ils peuvent donner, je pense qu'on a un projet cohérent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Monaco, c'est déjà un club qui est habitué aux grandes épopées européennes. Contrairement à si tu vas racheter Marseille ou je ne sais pas quoi, qui fait des 13 défaites d'affilée, des trucs comme ça, Monaco, c'est déjà un club qui est déjà sérieux. 2017, ils ont éliminé Guardiola, ils ont éliminé, je crois, ils ont éliminé Dortmund aussi de club.
Oui, ouais. C'est ça. Non, pas de club, de Tuchel, mais oui, ils avaient éliminé Manchester City et Dortmund à la suite avant d'être éliminés par la Juve en demi-finale.
Voilà, je crois que c'est 2004 où ils vont en finale ils font une
finale. Porto, ils font 3-0, je crois, ou 4-0.
Ils perdent contre Mourinho, ouais.
Ouais, ils font un parcours de fou cette année-là. Je crois même
ils battent les Galactiques.
Ouais,
ils éliminent le Real. De Abramovich.
Tu vois, c'est un club. Là, on vient de parler de deux demi-finales et une finale de Coupe d'Europe depuis sur les 20 dernières années. Nous, le Paris Saint-Germain, on est quasiment pareil, en fait. Une finale et deux demi-finales. Enfin, trois.
J'ai un autre exemple, si tu veux. Qu'est-ce que tu penses du Chelsea de Boeli qui a investi déjà plus d'un milliard sur le mercato alors que le club était plutôt performant depuis plus de 20 ans avec Abramovich?
Ouais, mais là, on est d'accord qu'ils ne connaissent pas vraiment le football. Boeli, il essaie de faire un truc américain qui ne marche pas sur le foot. C'est un truc qui marche dans les trucs de baseball et tout ça. Mais lui, il t'achète plein de gens et il te dit, bon, vas-y, on va voir comment ça se passe. Le plus fort, il va jouer, on va voir. L'entraîneur, il va se débrouiller. Mais ça ne marche pas comme ça dans le football.
Non, bien sûr. Alors, je ne te dis pas que forcément les Saouds feront la même chose à Monaco. Mais tu vois, moi, ce que je veux dire par là, c'est oui, il y aura sûrement de l'argent à Monaco si les Saouds reviennent. Je te donne le même exemple avec Monaco il y a une dizaine d'années quand Ribolovlev reprend le club. Il investit au début, il est en concurrence avec le PSG, Falcao, James Rodriguez, tout ce que tu veux, il fait un vrai mercato. Mais derrière, ça ne tient pas, les financiers divorcent, il doit justement revoir son projet. T'as Lille, c'est la même chose avec M. Lopez là, qui reprend Lille. Lille qui d'ailleurs nous chope un titre durant le moment où ils ont le projet qui est bien sérieux. Et derrière, pareil, la même chose, t'es obligé de survendre, survendre, survendre pour t'en sortir. Ça a vendu Osimhen, ça a vendu Léao. Et j'ai un peu cette impression que, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu cette crainte qu'en Ligue 1, en fait, on est en train de devenir un championnat qui est le réservoir de la PL, hein, parce que je vois les doubles partenariats, Lorient, Bournemouth, City 3. Et je me dis que peut-être Monaco serait le sous-fifre de Newcastle. Et moi, j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur que la Ligue 1, petit à petit, tous les propriétaires qui rachètent fassent de la double propriété avec un autre club plus puissant et se servent du club de Ligue 1 pour faire tremplin pour son vrai club numéro 1. Et moi, j'ai un peu l'impression que si le pif reprend Monaco, tu auras la même chose avec Monaco et Newcastle.
Après, ça dépend qui rachète. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans ce sens-là quand c'est Qatar, Émirats Arabes Unis et Saoud. On l'a vu par le passé, quand ils rachètent un club, en règle générale, et je parle d'un gros club, hein, un club vitrine, pas seulement les trucs de, tu sais, le City Group, etc. Monaco, j'ai du mal à le voir comme le petit club de Newcastle qui va former des jeunes et les envoyer à Newcastle. Je pense qu'il y a, une vraie envie des Saoudiens de venir en France et de concurrencer le Paris Saint-Germain et le Qatar. Et c'est vrai qu'on a pu voir quand même avec Newcastle, avec City, avec le PSG. En général, quand ces gens-là viennent et investissent, ils sont là vraiment pour... ils sont pas là pour éplucher les kiwis, quoi. Ils sont pas venus pour poser du lino. Et en général, il y a du gros joueur qui arrive et il y a un vrai projet, on va dire, qui se dessine. Je pense aussi qu'il y a la volonté pour les Saoudiens de venir mettre de l'argent dans d'autres clubs en Europe, parce que on a pu voir qu'avec le projet de, je crois, 2 milliards, quelque chose comme ça, avec leur championnat en Arabie Saoudite, bah, ça se passe pas finalement comme prévu. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir et finalement peut-être que le projet qu'ils ont voulu mettre en place ne se passe pas comme prévu, et peut-être que du coup il y a la volonté de venir s'implanter un petit peu partout en Europe. Et pour moi, Monaco serait, comme la Zinix, une très très bonne équipe par leur passé, par le fait qu'ils aient connu aussi des joueurs stars, des belles épopées européennes. La ville de Monaco aussi, parfaite pour accueillir des grands joueurs qui voudront venir vivre avec plaisir dans cette ville. Donc, non, pour moi, ça peut être un projet cohérent et un vrai rival au Paris Saint-Germain dans les futures années. Il n'y a plus qu'à espérer que ça se fasse.
Mais c'est quelque chose que je me suis dit aussi, le Paris Saint-Germain, je pense, attirerait beaucoup plus de joueurs si on était dans le sud. Genre, s'il y avait cette villa qui va avec, tu vois. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de
joueurs.
La
ville
de
Paris, quand même.
Oui, la ville de Paris, elle est plus belle. Mais moi, je te parle du style de vie. Il y a plein de joueurs qui ont envie de jouer à Barcelone, par exemple, que pas que pour le Barça.
Le cadre de vie.
Tu prends Lewandowski qui est au Bayern. Est-ce qu'il va dans un plus grand club s'il va au Barça? Pour moi, non. Il va dans un cadre de vie, il va dans un endroit où, par exemple, De Jong, sa meuf, elle ne veut pas quitter là-bas parce qu'elle vit très bien, elle aime le soleil, elle va à la plage, elle fait du surf, je sais pas, des trucs comme ça, qu'on n'a pas ici. Et moi, je me suis toujours dit que, en fait, ça ne joue pas pour la PL, mais par exemple, Kylian Mbappé, je sais qu'il avait dit Newcastle, moi, je ne vais pas jouer là-bas, il fait trop froid. Donc, ça se comprend que, par exemple, il va vers l'Espagne, tu vois.
Ouais, si mais... Oui et non, parce que en fait, à Paris, tu as quand même du beau temps. C'est pas non plus le nord de l'Angleterre. Ou... Non, mais c'est sûr que par rapport au sud ou à Barcelone, c'est sûr qu'on est loin, mais il y a quand même du beau temps, je trouve. Et surtout, tu as une ville magnifique. Puis tu as la capitale française, tu as la Jet Set, on connaît. Donc, je pense qu'ils sont très, très bien ici. Maintenant, si on parle vraiment du soleil, de la Dolce Vita, etc., j'ai envie de dire non, parce que justement t'as Barcelone qui est quand même pas loin, t'as l'Italie qui est pas loin, t'as le sud de la France qui est pas loin. Ils ont les moyens de descendre très rapidement dans le sud ou à Barcelone ou quoi que ce soit, de se faire des week-ends. Enfin, les femmes de footballeurs qui habitent à Paris, elles sont vraiment pas loin de tout ça et elles ont les moyens pour y aller. Donc pour le coup, tu vois, si on aurait été beaucoup plus haut, je sais pas, au Danemark ou, et encore maintenant c'est très rapide d'y aller en jet ou quoi, je t'aurais dit ok, mais là je trouve qu'à Paris on est quand même plutôt bien.
Ouais, okay. Et puis même, excuse-moi Nix, mais je trouve que le projet de dire c'est parce qu'on n'est pas au soleil, je trouve ça petit. Je veux dire, imagine, je veux dire, il y a plusieurs types, pour moi, il y a plusieurs types de joueurs. Bien sûr qu'il y a des joueurs qui vont être intéressés par ce que tu dis, mais est-ce que ces joueurs-là, c'est forcément ceux que tu dois recruter dans un projet comme le Paris Saint-Germain où tu as besoin?
Par exemple,
bah, Kylian Mbappé, est-ce qu'il va signer où là? Il va aller au Barça sur les plages ou il va aller dans les montagnes de Madrid?
Bah, il fait chaud là-bas. Sérieux.
Oui, mais attends, regarde, le Bayern Munich et Manchester City, regarde, deux exemples où, genre, vraiment, je pense pas que tu vas pour la ville et le climat.
Il y a qui joue là-bas,
il y a Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Bernardo Silva, ça fait trois ans qu'on essaie de piquer à City.
Ouais, ben Bernardo Silva, c'est quoi? Ça fait 3 ans qu'il te dit, moi, je vais me tailler de City et je vais retourner me mettre plus proche de ma famille, là où il fait chaud, etc. C'est pour ça qu'il voulait partir au Barça, c'est pour ça qu'il préfère aller au PSG. Donc, je vais te dire que tu peux y aller ouais, deux,
en
trois
attendant,
ans.
Il a fait, Maria, il a fait beaucoup d'années là-bas.
Il a fait à
oui,
City,
Di Maria, Di Maria, Manchester United, il a détesté là-bas. C'était à partir à cause du club, à cause de la vie aussi là-bas, qui disait que en fait, la vie là-bas, c'est pas pour lui. Donc, en fait,
tu et vois, Paris, il a adoré.
Ouais, bah, voilà. Ouais. Exemple, oui.
Et regarde, même j'ai un exemple du soleil si tu veux. Notre ami Franck Ribéry qui a quitté le soleil de Marseille pour aller à Munich, est-ce qu'il a fait un mauvais choix de carrière ou pas? Non. Et il ne s'est pas dit, oh purée, je quitte le soleil, je quitte la plage. Il s'est dit, je suis devenu le Kaiser à Munich, j'ai fait le bon choix. Donc je pense que si tu veux des joueurs qui pensent carrière et accomplissement avant de penser au temps de vie, au soleil et à la plage, bah, c'est tant mieux. Si tes joueurs ils préfèrent aller à la plage et avoir du soleil, c'est peut-être que tu ne vises pas les bonnes personnes à un moment. Peut-être.
Non, moi, je suis
totalement d'accord.
Personnellement, si j'avais le choix, j'irais jouer.
Là, il y a oui, mais toi, tu n'es pas du sud. Moi, j'en viens du sud. Si tu veux, pour discuter, est-ce que j'habite encore dans le sud? Non. Donc, à un moment, il n'y a pas que le soleil qui compte dans
la même vie. Tu n'habitais pas dans le sud en étant millionnaire. Ça, c'est pas la même chose. Là c'est dans des oui, dans des grandes villas où tu n'as pas de voisins, des trucs. Où... Vas-y, bref. Prochain sujet. Les clubs français ont encore été ridicules en Europe. Du coup, il n'y a que. Oui, vous l'aurez remarqué, on parle un petit peu plus du. Tout ce qu'il y a autour du Paris Saint-Germain, parce que l'actu, elle est un peu morte en ce moment. J'ai essayé de faire des sujets hier soir, mais il y avait côté PSG, on va en parler juste après, mais il n'y avait pas 10 000 sujets. Donc là, est-ce que pour vous, les clubs français qui sont encore ridicules en Europa League, est-ce que vous êtes toujours contre la Super League? Est-ce que à un moment donné, ça suffit, quoi, Réco?
Oui, oui, toujours contre, pardon, j'allais dire pour. Non, toujours contre. Pour moi, ça tuerait les championnats nationaux. Et moi, je suis attaché à mon championnat. Moi, je suis attaché à des matchs que tu vas jouer au Moustoir, à Francis Leblé. J'aime les petits clubs de Ligue 1 qui essayent de se débrouiller. Surtout que je trouve qu'on va sur une pente ascendante depuis plusieurs années. Je trouve qu'ils essayent vraiment de se développer comme ils peuvent. Et je trouve qu'ils sont vraiment de mieux en mieux. Et on le voit avec Brest, on le voit avec Reims. On le voit aussi avec Toulouse qui est revenu et qui essaye de se différencier avec la data qui a gagné une Coupe de France aussi, Nantes qui a gagné une Coupe de France ces dernières années. Donc non, je suis totalement contre la Super League et comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est surtout les plus gros clubs de Ligue 1 qui déçoivent et qui doivent être à la hauteur. C'est dommage parce que Lens notamment avait fait une belle campagne de Ligue des Champions. Pour le coup, ils méritaient peut-être même de se qualifier. Et au final, bon, ils sont reversés en Europa League et ils se vautrent lamentablement en menant 2-0. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Mais Toulouse a fait bonne impression face à Benfica. Ils auraient pu accrocher une prolongation. Donc, c'est dommage aussi pour eux. Au final, bon, Marseille sort face au Shakhtar, tant mieux, heureusement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu trompe-l'œil parce que ça aurait pu quand même faire un 3-4. Au final, on finit en 1 sur 4, mais on aurait peut-être pu avoir la surprise Toulouse. On aurait normalement dû avoir Lens. On a eu l'OM, donc il y a Lille aussi qui normalement devrait passer Sturm Graz. Mais ouais, c'est un petit peu trompe-l'œil. Je pense qu'il ne faut pas tirer de l'alarme sur cette année-là parce qu'au final, on aurait dû faire un petit peu mieux. Rennes n'a pas été non plus minable. Mais pour moi, oui, c'est surtout les gros clubs, les Marseille, Lyon, Monaco qui doivent faire beaucoup mieux. Monaco, ça fait plusieurs années qu'au lieu d'aller en Ligue des Champions, ils ne passent pas le barrage, ils finissent en Europa et puis derrière, ils ne font rien. Donc, c'est surtout ça. Mais oui, évidemment, par rapport à la Super League, toujours contre. Et pour moi, il faut juste qu'on développe mieux nos grands clubs. Et je pense surtout aux dirigeants. Il y a énormément de dirigeants qui n'ont rien à faire dans les grands clubs et qui sont là juste par piston. Pour ne pas citer, par exemple, Bruno Cheroux à Lyon. Je ne sais même plus s'il y est toujours, mais voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'emplois fictifs.
Il est pistonné chez Canal+, c'est plus pareil.
Ouais, chez Canal, ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc non, ouais, pour moi, il y a beaucoup de fraudes qui sont, que ce soit à la LFP, à la FFF ou dans nos meilleurs clubs de Ligue 1. Et c'est surtout ces mecs-là qu'il faut dégager. Et si ces clubs travaillaient aussi bien que nos petits clubs, on s'en sortirait beaucoup mieux à l'échelle européenne.
Juste pour rebondir sur SR qui nous dit purée, les mômes, vous.
Il
vous
a raison.
Souvent sur le soleil de 30 degrés quand ça tape, c'est pas agréable du tout.
Il a raison.
Juste pour info, on va rentrer dans ma petite vie personnelle. Moi, j'ai grandi aux Antilles. Après, j'ai joué au foot en France. Et je peux dire que je préfère le 30 degrés que jouer sur -10. J'ai fait les deux.
Mais toi, t'es Antilles, gars. T'es Antilles. J'ai fait donc, les deux. Tu peux pas.
Toi, tonton, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, perso, je commence à. Enfin, j'ai pas envie d'y aller parce que je sais que le Barça et le Real, ils vont taper 1 milliard si on y va. J'ai pas envie de leur donner cette force. Mais franchement, tonton, les matchs de Ligue 1 ces derniers temps, c'est dur à regarder. Et moi aussi, j'en ai marre du bus, en fait. C'est ennuyeux. Je sais pas, faites quelque chose, proposez du football. Genre, on a joué encore contre Nantes. Vas-y, ils ont fait des comptes, c'était pas mal. Mais sinon, j'en ai marre de voir des bus. Qu'est-ce que toi, t'en penses?
Bah moi je suis absolument pas d'accord et je vais rejoindre Dricoba, je ne veux absolument pas cette Super League, surtout une Super League qui est super équitable, hein. Elle va donner de l'argent au Real Madrid et au Barça et leur offrir des avantages d'entrée, alors que les autres clubs n'iront pas droit. Je ne vois absolument pas l'avantage et l'intérêt de cette compétition si elle démarre déjà en étant faussée. Moi j'aime la Ligue des Champions, j'aime la Ligue Europa, j'aime la Conference League, j'aime pouvoir suivre plusieurs championnats européens et j'ai pas envie de m'arrêter à ça. Oui, on a des bus en Ligue 1 et le championnat n'est pas fou. On peut faire le même constat avec la Liga depuis que Simeone a gagné cette Liga. Bah, la Liga s'inspire beaucoup de Simeone. On voit plus de blocs bas que des équipes joueuses à l'époque de Pep Guardiola. La Liga, c'est plus la Liga 2013. La Serie A, on a le droit d'en parler aussi. Un championnat qui adore les défenses à 5, le jeu tactique et lent. Ça pose moins de problèmes quand ça vient à l'étranger, apparemment. Moi, je pense juste qu'on doit garder la Ligue des Champions et sous le format actuel. Ce n'est pas parce que je suis contre la Super League que je veux du nouveau format de la Ligue des Champions. Cette disquette ne marche pas avec moi. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je veux qu'on continue la Ligue des Champions comme elle est actuellement, comme ben, je l'ai vu depuis mon enfance en 2001. Et j'ai envie qu'on continue ces compétitions à l'échelle nationale. Et je vais rejoindre Rico sur le sens que c'est au club un peu de se bouger. Et justement, Rico, pour moi, il a traduit un truc, comment dire, très franco-français et un peu trop sympathique envers les petits clubs champêtres. Quand c'est Lens, on aime bien dire, regardez le beau parcours de Lens. Lens, c'est 2 victoires en 8 matchs. C'est minable. C'est minable. Et moi, je suis désolé. Non, non, c'est minable. 2 victoires en 8 matchs, c'est minable. Oui, mais
Oui,
Lens, ils n'ont pas le budget du Qatar. Le PSV, ils n'ont même pas le budget de Lens et ils ont éliminé Lens en Ligue des Champions. Ils sont en 8e, ils ont fait nul contre le Borussia Dortmund.
je suis d'accord avec toi,
Non.
sauf que, en fait, les autres clubs français n'arrivent même pas à avoir des victoires contre Arsenal et Séville. Donc, moi, j'ai déjà un côté positif parce que les 2 matchs que Lens ont fait, bah, ils étaient vraiment bien.
C'est bien, ils ont fait 2 bons matchs, mais si c'est pour être éliminé derrière et rapporter 0 point UEFA, à quoi ça sert? À rien du
Ouais.
tout. Moi, j'en ai marre d'être partisan de regardez le petit club de Ligue 1 qui boxe avec ses moyens et arrive une fois à battre un gros et à prendre 7 tartines derrière. Frangin, le PSV, ils n'ont pas le budget de Lens. Le PSV n'a
Marseille
pas
a
le
pris
budget de
cette
Lens.
tartine d'affilée, c'est pour ça que je disais
Non,
ça.
mais à un moment, je suis désolé, mais quand c'est le PSG qui rate un match sur 6 matchs, on va les faire chier. Et on aura raison, c'est de l'exigence. Mais quand c'est les autres clubs de Ligue 1, on a toujours ce petit truc de club champêtre. On a l'esprit Coubertin, l'important c'est de participer, et il faut arrêter avec ça. Si le PSG se foire en Ligue des Champions, faut les mitrailler. Sinon, s'ils font que 2 victoires en 8 matchs, c'est minable et il faut le dire. Faut arrêter à chaque fois de protéger les clubs. Si tu me dis que le Toulouse s'est fait tartiner par Benfica parce qu'il y a un vrai écart de niveau d'expérience dans la compétition, il n'y a pas de problème. Si tu me dis Rennes a perdu contre l'AC Milan, qui est quand même une institution du football mondial, et que tous les autres clubs français ils auraient pris la tartine, pas de problème. Mais quand à un moment, les autres clubs, oui, les clubs champêtres, et je vais les appeler comme ça, je ne vais pas me gêner, eh ben, ils ne font pas leur taf, eh ben, il faut le dire aussi. Et moi, je ne suis pas d'accord de toujours protéger ces petits clubs de Ligue 1, parce que soi-disant, ils n'ont pas le budget du Qatar. Le budget du Qatar, il n'y a que le Qatar qui l'a. Et ça, c'est clair et net. Il y a plein de clubs qui n'ont pas le budget du PSG et qui arrivent à fonctionner. Il y a plein de clubs qui n'ont même pas le budget du RC Lens et qui arrivent à faire des parcours chaque année dans les compétitions européennes. Moi, je trouve qu'il faut qu'on soit plus dur avec le championnat français. Parce que tant qu'on sera sympathique comme ça avec eux en leur disant c'est bien, t'as essayé, t'as fait 2 bons matchs sur 8 matchs et tu vas revendre tes meilleurs joueurs à la fin de la saison comme tu fais chaque saison et comme ça, la saison prochaine, tu seras même pas en état de faire une saison du même niveau que la précédente, eh ben, on n'avancera pas. Et c'est ça le problème. Lens, regarde, ils se qualifient en Ligue des Champions. Et ils vont pas le refaire cette année. Là, ils sont dégringolés en Ligue Europa, ils ont même pas passé de barrage. Est-ce qu'ils vont se qualifier en Ligue Europa cette année, Lens? On n'en est même pas sûr. Et on va les applaudir parce que, ouais, ils ont fait 2 victoires en 8 matchs. C'est minable, je suis désolé. Et non, je ne suis pas pour la Super League pour autant. Et il faut juste que nos clubs ils se bougent le cul comme ceux des autres championnats. Enfin.
Bon, on va repasser au Paris Saint-Germain. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'actu, il y a un petit peu d'actu quand même. Ouais, je voulais réagir sur Tonton, mais bref, ça va reprolonger le truc. Le PSG va se faire attaquer pour Marquinhos, selon les dernières informations. Le Bayern Munich ciblerait le Brésilien après, à savoir, est-ce que c'était Tonton Tourelle qu'il voulait, maintenant que Tonton Tourelle n'est plus là, est-ce que le Bayern va toujours le cibler? C'est une question. Il y aurait des formations de Première Ligue aussi. Tonton, pour toi, c'est quoi le juste prix pour Marquinhos? À quelle offre, à quel montant tu dis, bon, vas-y, fais tes valises et tu t'en vas?
C'est compliqué dans le sens où on sait qu'actuellement, on n'arrive plus à tirer le meilleur de Marquinhos, celui qu'on avait vu justement bah, pendant le Final 8 et la saison d'après. À ce moment-là, bah, je pense qu'on avait la meilleure version de Marquinhos. Et moi, personnellement, j'ai un peu peur qu'on ne la retrouve pas. Concernant son prix, c'est un peu compliqué parce que du fait de sa baisse de performance, tu ne peux plus forcément demander une énorme offre comme avant. En revanche, bah, il faut rappeler qu'il a quand même un long contrat, qu'il a prolongé et que forcément, le coût du contrat et du salaire, bah, ça joue quand même dans le prix du transfert. En ce qui me concerne, non, je ne l'échange pas avec Kim In-ye, certainement pas. Je pense que le meilleur prix que tu peux en tirer, c'est entre 60 et 80 millions avec bonus, selon qui te l'achète. Parce que le Bayern, par exemple, mis à part Brazo, et Brazo a été viré du Bayern, le Bayern n'a jamais été un club qui dépense plus que ça. C'est un club qui fait de la bonne gestion. Et je ne les vois pas dépenser 100 millions sur un Marquinhos. En revanche, si tu vas sur un club de PL, je dis au hasard, hein, Newcastle ou Manchester United, qui eux ont de l'argent, et ont des projets ambitieux, bah eux peut-être qu'ils seraient capables de rentrer dans la concurrence et mettre un peu plus d'argent sur ce joueur-là que ce que pourraient faire plein d'autres clubs. Mais au Bayern, surtout quand tu vois que la problématique actuelle avec Upamecano, c'est son mental, j'aurais du mal à voir le Bayern se dire « on se débarrasse de Upamecano et on va prendre un défenseur plus âgé et qui a le même problème qu'Upamecano ». Mais sinon, pour moi, entre guillemets, je le vendrais à 60-80 millions parce que j'estime que c'est le prix maximum que tu peux en tirer.
Les amis, je vois vos questions, je les marque, on essaiera d'y répondre à la fin du live ou on fera une pause de questions juste avant les prochains sujets. Rekoba, c'est quoi ton montant pour dire au revoir à Marquinhos?
C'est difficile d'avoir un montant, je sais que beaucoup veulent le faire partir, je ne te cache pas que je suis assez d'accord avec Tonton, si jamais ça monte à aller à 80 millions, pourquoi pas, mais en fait, il y a aussi le problème du marché. On voudrait tous avoir Lenny Yoro, ça va coûter cher, je pense qu'il faut le faire. Maintenant, est-ce que tu te sens d'installer Lenny Yoro titulaire dès l'année prochaine et faire partir Marquinhos? Bon, on sait que Lucas Hernandez est fragile, Yoro, on ne sait pas si ça va fonctionner tout de suite. Tu vois, c'est un petit peu léger. Skriniar, voilà, on n'est pas satisfait du niveau. Il y a encore Danilo, il y a Beraldo, mais je trouve que ramener ouais, Kimpembe, mais on ne sait pas trop comment il va revenir, à quel niveau, etc., et quel niveau physique. Donc, se séparer de Marquinhos, pourquoi pas, mais qui tu vas faire venir derrière? Remplacer Marquinhos par Yoro seulement, je pense que c'est un petit peu léger. Et le problème, c'est que sur le marché, est-ce que tu peux aller chercher quelqu'un qui a, on va dire, l'expérience de Marquinhos ou tout du moins qui est le niveau, on va dire, de Marquinhos ou un petit peu meilleur? Bah, je ne sais pas, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent nous intéresser, comme Konaté par exemple, mais qui ne seront pas sur le marché. Kim In-ye, j'ai vu dans le chat, bah, il vient d'arriver au Bayern. De Ligt, il y a toujours un départ, mais en fait, il n'y a jamais de départ. Donc, c'est bien gentil. Et puis, ce n'est peut-être pas forcément meilleur non plus. Donc, à un moment donné, quand tu as un marché où tu n'as personne de disponible, c'est un petit peu comme Donnarumma. Donnarumma, il y en a qui voudraient s'en séparer, sauf que bah, qui tu vas aller prendre derrière? Il n'y a personne sur le marché des gardiens de dispo, à part peut-être Mike Maignan. Et encore, c'est loin d'être fait et disponible. Donc, est-ce que cette année, je me séparerai de Marquinhos? En cas d'énorme offre autour des 80 millions, pourquoi pas? Mais personnellement, je pense que je le garderai quand même un an de plus parce que je pense que, pas cet été, mais l'été prochain, tu auras des joueurs en défense centrale qui pourraient être disponibles. Et je pense que ce serait mieux à ce moment-là de faire partir Marquinhos. Et puis en plus de ça, on sait que pour l'intégration d'un Beraldo, pour l'intégration même d'un Lenny Yoro, d'un Moscardo, etc., bah, tu vas quand même avoir besoin de Marquinhos. Donc, à voir.
Et même d'un autre DC. Moi, j'estime que si tu vends Marquinhos, tu vends Skriniar, mais tu prends Yoro plus un autre défenseur plus expérimenté.
Oui, voilà. Oui, exactement.
Ok, les amis. Prochain sujet, on va parler de la défense, parce qu'on a commencé à parler de Marquis, mais il y aurait aussi Hakimi qui est ciblé par le Real. Donc on va aborder une question pour savoir est-ce que c'est dangereux de faire trop de modifications sur cette défense pour la saison prochaine. Les gars, est-ce que c'est dangereux de faire partir deux titulaires la même saison ? Non, d'un point de vue gestion d'effectifs, parce que la dernière fois on a dit si par exemple Hakimi veut partir, il s'en va, genre dès qu'il y a la bonne offre on vend. Là, s'il y a Marquis aussi qui peut partir, ça fait quand même deux titulaires de ton équipe. Ça veut dire que pour l'année prochaine tu aurais deux points d'interrogation dans ta défense, alors qu'on en a déjà trois au milieu et peut-être un demi point d'interrogation en poste de numéro 9. Est-ce que même si certains joueurs veulent partir et même si par exemple le club veut se débarrasser de certains joueurs, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à trop bouger le squelette, entre guillemets, de cette composition, Rico?
Non, bon, pour moi, s'il veut partir, il part. Je retiens personne qui veut partir. C'est sûr que si tu perds d'un coup Marquinhos et Hakimi, tu perds deux titulaires et qui ont quand même de la qualité. Maintenant, je préfère laisser partir des mecs et puis devoir me retourner. Après, c'est aussi à toi de bien gérer le dossier. Tu dois savoir qu'ils veulent partir bien avant le plein mercato d'été et te dire ah, 2 semaines, ah mince, Hakimi veut partir, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah on peut pas le remplacer, il n'y a personne sur le marché, ah bah on va le prolonger, on va le retenir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une possibilité qu'un Hakimi ait envie de partir. Donc tu dois voir directement avec lui. On parle déjà d'une prolongation aussi, donc c'est bien. Tu dois voir dès aujourd'hui avec lui s'il veut prolonger ou si il compte partir au Real Madrid ou ailleurs. Et si jamais c'est le cas, et ben dans ce cas, tu prévois déjà l'après Hakimi dès cet été en prévoyant son remplaçant et en laissant partir Achraf Hakimi. Et c'est pareil pour Marquinhos. Si tu sondes le marché et tu vois qu'il peut y avoir des grosses offres et des clubs intéressés, tu travailles dès aujourd'hui pour trouver son remplaçant, pour avoir un Lenny Yoro, pour avoir un mec aussi d'envergure derrière, en laissant partir Skriniar, comme a dit Tonton. Mais pour moi, tout ça se travaille en amont. Et dans tous les cas, s'ils veulent partir, tu dois travailler en amont pour le savoir et pour les remplacer le plus rapidement possible et pas te retrouver à la dernière minute à devoir les garder. On sait très bien que c'est contre-productif de garder certains joueurs. Après, il y en a des fois qui sont ouverts à un départ, mais si jamais ils restent, ils sont quand même dans le projet. On a pu voir avec Bernardo Silva, il a voulu partir depuis 2 ans. Ce n'est pas pour autant que depuis 2 ans, il est mauvais, il est toujours concerné, toujours professionnel. Donc, ça dépend aussi le type de joueur et le caractère des joueurs. Mais à un moment donné, oui, si Hakimi veut partir, je ne le retiens pas. Et si Marquis est arrivé à la fin de son aventure, on ne le retient pas non plus.
Mais dans le chat, je crois que vous n'avez pas vraiment compris la question. En fait, ce n'est pas genre retenir les joueurs pour les retenir. Par exemple, si Hakimi tout seul, il veut partir, bah il part. Si Marquinhos tout seul, il veut partir, il part. Mais là, je vous parle d'une stratégie collective. Est-ce que tu es prêt à avoir, parce que je sais pas, Hakimi, les 2 premières saisons, il n'est pas très bon. Cette saison, c'est peut-être un match sur deux, ouais, peut-être. Mais on a quand même un minimum de garantie. Est-ce que vous êtes prêt, entre guillemets, à laisser autant de joueurs qui veulent partir, partir? On voit bien que Guardiola, il n'a pas fait avec Bernardo Silva parce que ça faisait trop. Il a laissé partir Mahrez, il a laissé partir. Bref, il a laissé partir d'autres joueurs. Mais arrivé à Bernardo Silva, il a dit, là, ça fait trop de joueurs qui partent et j'ai besoin de garder ma colonne vertébrale un peu. Et est-ce que nous, on ne devrait pas penser à ça, tonton?
Moi, disons que je pense que c'est pensé autrement. C'est pas le nombre de joueurs qui a inquiété Pep, c'est le joueur en question. Parce que il aime bien sortir cette légende de on ne retient personne à Manchester City. C'est très très faux. C'est très très faux. En fait, il faut juste aller chercher les joueurs que Pep ne veut pas lâcher et tu verras s'il ne les retient pas. Il y a Bernardo Silva, il y a Phil Foden, il y a Julian Alvarez. Ces mecs-là, essaye d'aller les chercher. Tu vas voir si Pep il les laisse partir. Ce n'est pas vrai. Pour reciter Pep lui-même, moi je pense que si tu peux faire plus de changements, dans le sens où Pep lui-même, quand il arrive à Manchester City, son équipe elle n'est pas prête au début. Il a du Kolarov ou Clichy à gauche, il a Sagna et Zabaleta à droite, des mecs qui ne correspondent pas à sa philosophie. Il a Claudio Bravo en gardien qui est un assassin et qui prend 18 buts sur ses 23 premières frappes quand il a Manchester City en tant que gardien. Il achète beaucoup de joueurs, Pep. Il a besoin d'un chantier, il remodèle son effectif. Et Luis Enrique, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que bien sûr, c'est pas Pep, il est moins bon, mais il y a des principes qui sont communs. Et Luis Enrique, bah, à un moment, s'il veut mettre en place sa philosophie, bah, faut le laisser faire. Moi, concernant Hakimi, bah, c'est simple. Là, on est en mars, bientôt. Je vais voir Hakimi, je lui dis, écoute, gestion Bayern, il te reste 2 ans de contrat à Achraf. On se met d'accord. Soit tu prolonges et tu t'inscris avec nous dans le long terme, parce que tu as envie de ça. Soit tu estimes que bah, le PSG t'en a fait le tour et c'est pas ton projet. Et à ce moment-là, tu demandes ton départ, mais tu pars maintenant avec 2 ans de contrat et avec une certaine somme. Tu ne nous fais pas le coup de je veux rester et au dernier moment, tu nous fais une Kylian et tu nous annonces que tu veux partir à moins de 6 mois de la fin de ton contrat. Ça, c'est hors de question. Moi, en soi, il faut qu'on soit capable justement de ne pas retenir les joueurs pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'on a fait avec Mbappé. Pour moi, c'est simple, les joueurs, tu dois faire un peu comme fait le Bayern. C'est-à-dire que entre 2 et 1 an de fin de contrat, tu vois, tu prends un peu les devants, tu vois. Exactement, on est Lucho compatible nous aussi, tu vois. Genre, tu vas voir le joueur et tu dis, écoute, il te reste tant de contrats. Tu as le droit de pas rester. Mais si tu restes, tu prolonges et à long terme, si tu ne veux pas rester, et c'est ton droit, hein, je ne vais pas retenir à Achraf si tu ne veux pas rester, bah dans ce cas-là, tu nous le dis maintenant, et au moins on le sait, et au moins on a le temps de chercher ton successeur. Toi, tu peux partir, il n'y a pas de problème, et nous, au moins, on ne se retrouve pas comme des cocus à devoir te remplacer le 25 août. Par exemple, tu vois, c'est une idée que je propose. Mais moi, je pense que justement, avec les autres joueurs, c'est ce qu'on va devoir faire à partir de maintenant. On a fait des erreurs avec les Kazlatan, Mbappé, tout ça, et Di Maria, qu'on a retenu jusqu'à des fins de contrat et qu'on n'a jamais revendu, et on s'est bien entiché de leur salaire jusqu'à la fin. Je pense qu'à partir de maintenant, les joueurs comme Hakimi et tous les autres, hein, faut aller les voir et dire, écoute, il te reste 2 ans de fin de contrat. soit tu restes avec nous et on sera heureux de te garder et on te propose un contrat où tu es à long terme avec nous, soit tu n'as pas envie de rester et c'est tout à fait ton droit, mais à ce moment-là, tu nous le dis tout de suite. Comme ça, nous, on s'organise et on te laisse partir. On trouve une porte de sortie, tu as le temps de trouver une porte de sortie propre. Et nous, de ce côté, eh ben, on n'a pas l'air de cocu. On a le temps d'avoir le temps de trouver quelqu'un. On a le temps de trouver un joueur, eh ben, soit dans ton profil, soit dans un profil que Luis Enrique veut. Mais au moins, on a le temps de s'organiser.
Je suis d'accord avec toi, Tonton, mais au final, le Bayern, tu dis ça.
Oui. Ils ont regardé, il ne va pas finir en fin de contrat.
Ils ont eu Kimmich à un an de la fin de contrat. Ils vont avoir.
Et il va prolonger. Et il va prolonger.
On ne sait pas, c'est pas encore fait.
Alors non, Upamecano, c'est pas un an, c'est deux ans. Ou pas, c'est deux ans. Kimmich, c'est un an et il va prolonger parce qu'il a eu la tête de tourelle, comme je t'avais dit.
Ouais.
Davis, il lui reste un an et il va partir parce qu'ils ne vont pas le laisser comme ça jusqu'à la fin de son contrat. Le seul qui a fait jusqu'au bout de son contrat pour service rendu, c'est David Alaba parce qu'il est formé au club et que c'était service rendu. C'est en mode, avec tout ce que tu as donné au club et tu as gagné deux Ligues des Champions, vas-y, touche ta prime au Real, tu peux partir libre. Pour les autres, Müller, il aura la même chose parce que Müller, c'est un enfant du club. Mais regarde les autres. Les autres, c'est il te reste un an de fin de contrat ou deux ans, soit tu prolonges, soit tu dégages. Lewandowski, il te restait qu'un an, tu veux partir ? Va au Barça, par contre, c'est 55 millions. Et nous, le truc, c'est qu'on ne fait pas ça. Nous, on se dit, ouais, mais bon, il reste un an, mais on ne sait jamais. Le joueur, il peut peut-être avoir envie de rester. Il est bien au club. Il faut qu'on joue sur les sentiments. Ça ne marche pas. Il n'y a que 5 joueurs dans l'histoire du foot qui ont prolongé à moins de 6 mois de la fin de leur contrat. Alors, oui, Mbappé l'a fait une fois. Oui, t'as Brozovic et Dembélé qui l'ont fait récemment. Mais Mbappé, il l'a fait une fois. Il ne va pas le faire deux fois. Et il faut qu'on prenne cet exemple pour se dire, bah, à partir de maintenant, un joueur, il lui reste 2 ans de fin de contrat. Tu prolonges ou tu pars. Mais tu ne nous laisses pas dans la position du cocu.
Rico, tu voulais réagir ?
Ouais, mais parce qu'il a cité l'exemple de City qui est un bon exemple, puis il y en a d'autres. Il y a eu Liverpool plusieurs fois, a beaucoup, beaucoup changé son effectif, ça n'a pas empêché d'avoir des résultats. On a eu Leverkusen là aussi cette année avec Xabi Alonso qui a changé beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de recrues, il y a eu tout un jeu totalement différent. Il y a un 11 très, très différent de l'année dernière et pour autant, ils sont en tête avec 11 points d'avance aujourd'hui, 8 si le Bayern gagne. Donc ce n'est pas parce que tu fais partir Marquinhos Hakimi d'un coup que tu vas te retrouver en Ligue Europa. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien les remplacer avec les choix du coach et avec des mecs qui sont compatibles et surtout qui s'adaptent vite parce que c'est aussi pour ça que Guardiola voulait absolument garder Bernardo Silva. Parce que tu as des profils de joueurs comme ça qui sont ultra importants dans ton équipe. Au-delà du niveau intrinsèque du joueur, c'est l'adaptabilité, le fait de pouvoir tourner dans ton effectif. Tu sais qu'il est professionnel. S'il va sur le banc, il ne va pas faire la gueule. Tu sais que c'est un joueur important. Lui-même sait qu'il est important. Il va être important pour les jeunes, etc. Donc, c'est important de prendre des profils de joueurs comme ça aussi qui s'adaptent vite. On a pu le voir avec Grimaldo à Leverkusen. Il est exceptionnel direct. Granit Xhaka, c'est pareil. Il vient d'arriver, mais c'est déjà le patron de cette équipe. Donc, ça a besoin de cibler aussi des joueurs qui s'adaptent vite parce que c'est sûr que si tu ramènes des mecs qui viennent du fin fond de l'Amérique du Sud, tu vas avoir besoin d'adaptabilité, de temps, etc. Et c'est normal.
Ouais, c'était ma crainte avec cette question. C'était cette année, on a dit on est en mode rénovation, entre guillemets, c'est pas grave. Et j'avais peur que la saison prochaine, on va dire nouvelle défense centrale, il faut leur laisser du temps, après tu perds encore une année, etc. etc.
Ouais, de toute façon, je pense qu'on va être en rénovation encore cet été. Hein. Je pense qu'entre le mercato de l'été dernier et celui-là, il va y avoir encore beaucoup de changements parce qu'il y a toute la refonte d'effectifs à continuer. Et puis je pense que ce sera peut-être le dernier, mais après, je pense que dans le troisième mercato de 2025, etc., je pense qu'on fera une ou deux recrues à des postes ciblés là où on a des carences. Mais je pense que cet été-là, ce sera encore la suite de la refonte de l'effectif.
Je ne pense pas qu'on va jouer Monaco le 3 mars. Je pense juste que les dates, elles n'ont pas encore été établies. Mais je pense qu'on devrait jouer le vendredi ou le samedi. Parce que ce n'est pas possible de jouer le dimanche et le mardi derrière. Ok. On était sur le Bayern. On va continuer sur le Bayern parce que ça affecte le Paris Saint-Germain. Tonton, on a déjà parlé un petit peu. Est-ce que le licenciement de Tourelle n'aura pas un impact sur le mercato du Paris Saint-Germain parce qu'il y avait deux pistes qui nous intéressaient du côté du Bayern. Il y avait Kimmich et il y a De Ligt. Les deux joueurs étaient en conflit avec Thomas Tuchel. Kimmich, on avait déjà prévu qu'après le départ de Tuchel, il allait probablement prolonger. De Ligt, à mon avis, c'est peut-être un autre dossier. Peut-être qu'il va attendre de savoir qui est le prochain coach, peut-être. Savoir si c'est un coach qui va compter sur lui ou pas. Mais du coup... Tonton, je te laisse côté Bayern, ça a un impact sur notre mercato, quoi.
Ouais, totalement, surtout au niveau de certains joueurs. On sait que certains joueurs n'avaient pas Thomas Tuchel dans leur poche. Et comme je l'avais dit, il s'était mis à dos des cadres très importants du vestiaire, notamment Thomas Müller et Joshua Kimmich. Et pour ces raisons, c'était quasiment impossible qu'il fasse plus de 16 mois, j'avais dit à l'époque. Bah, finalement, il en fera 13. Même au niveau du mercato, oui, ça va changer des choses. Kimmich, justement, qu'on avait abordé la rumeur Kimmich sur la chaîne, je disais que Kimmich, pour moi, il négociait en fait, il voulait la tête de Tourelle pour prolonger au Bayern. Et que s'il obtenait la tête de Tourelle, il prolonge au Bayern. Si Tourelle restait, Kimmich allait partir. Bon, finalement, Tourelle va partir. Et là, bizarrement, le lendemain de son éviction, tu vois, Leroy Sané et Joshua Kimmich qui sont en discussion tous les deux pour prolonger leur contrat. Donc je me dis que, un peu malheureusement, oui, ça va déteindre sur certains joueurs qu'on cherche. En revanche, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on pourrait tenter, et c'est pas qu'une histoire de tourelle, dans le sens où il y a des joueurs qui ont peut-être fait le tour au Bayern. Je pense à Upamecano, par exemple, qui va arriver à 2 ans de fin de contrat, qui a un certain agent qui est le même que Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Lui, il avait été recruté par Nagelsmann est parti depuis, et pas sûr que le prochain coach qui soit recruté soit un grand fan de Upamecano. Donc oui, tu peux aller chercher ce joueur-là, par exemple, mais je pense qu'il y a certains joueurs du Bayern qui, oui, du fait du départ de Thomas Tuchel, vont prolonger dans ce club à plutôt moyen long terme et ça va être compliqué d'aller les chercher. Je pense justement à comment il s'appelle. Kimmich, c'est grillé maintenant. Kimmich, vu que Tourelle part, c'est grillé, il va prolonger et plutôt à long terme.
Il y a Isem qui nous dit, vous comparez Enrique à Pep, il n'est qu'une grosse arnaque. Fallait regarder le match hier de la Real Sociedad qui s'est fait humilier à domicile contre Villarreal alors qu'on a galéré contre eux au Parc. Rico, je te laisse continuer sur le Bayern. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose le départ de Thomas Tuchel?
Il y a tellement de choses à répondre là-dedans. Alors, bon, on va commencer par le Bayern. Oui, pour moi, dans tous les cas, Kimmich, pour moi, c'était un jeu de dupe. On savait très bien qu'il voulait la tête de Tuchel et qu'il allait l'avoir. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Pour moi, Kimmich n'a jamais eu la volonté ni de partir et encore moins de jouer au Paris Saint-Germain. De Ligt, pour moi, c'est comme De Jong, c'est terminé, ça suffit. Ça fait des années et des années que son nom est lié au Paris Saint-Germain, que chaque mercato, son nom revient côté Paris Saint-Germain. On n'en veut pas. Ça fait plusieurs fois, je pense, peu importe le directeur sportif en place, qu'on s'est penché sur le dossier, qu'on l'a voulu, il n'est jamais venu. Donc, à un moment donné, c'est bon, on doit tourner la page. En plus de ça, c'est loin d'être le défenseur central qu'il était censé être. Il a beaucoup de mal, que ce soit mentalement ou même dans son niveau footballistique. Il se fait bencher plusieurs fois. À la Juve, il a eu du mal. Au Bayern, il a du mal. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup mieux sur le marché. Il y a beaucoup mieux à aller chercher plutôt que de mettre des 60, 70 millions sur De Ligt. Maintenant, oui, le fait que Tuchel soit limogé à la fin de la saison, enfin parte à la fin de la saison, c'est sûr que ça va changer certaines choses. Et puis après, il y a même Matistel qui, là, depuis Tuchel, ne joue plus. C'est un joueur que tu aurais pu aller chercher et qui est en difficulté, qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de jouer, tout simplement. Et peut-être que tu aurais pu aller le prendre ou d'autres clubs auraient pu le prendre de toute manière. Donc peut-être que le nouveau coach comptera un petit peu plus sur lui. C'était un joueur qui aurait pu partir. Et puis par rapport à ce que je vois dans le. Vas-y, tu veux parler de tel?
Non, mais t'as raison, Matistel, très très bon joueur. Bon, bah, Nix, vas-y, fais ta propa, du coup, vu qu'il est antillais, lui, t'as le droit de faire sa réclamation. Matistel, c'est quelqu'un de très sérieux. Déjà, c'est un mec, ça fait que 1 an qu'il est à Munich, qui parle déjà allemand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de parler allemand, et surtout en 1 an. C'est un joueur qui, en plus, s'est dit, il y a Harry Kane qui vient jouer à mon poste, il faut que je sois capable de m'adapter et jouer autre part. Il accepte de jouer sur l'aile gauche pour avoir du temps de jeu, même si, comme l'a dit Rekoba, Thomas Tuchel lui donne de moins en moins de temps de jeu, et c'est dommage parce qu'il a été longtemps le super sub le plus efficace d'Europe cette saison. Je pense que oui, si tu cherches un attaquant qui est Lucho compatible, qui a la bonne mentalité, qui plus est, en plus, est un Parisien, je pense que oui, Matistel pourrait être une excellente idée. Après, cependant, quand tu vois Matistel, sa mentalité et comment dire, son plan de carrière, est-ce que aller le chercher cet été, c'est une possibilité? J'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes sur la faisabilité d'aller le chercher. Cependant, si on a une possibilité d'aller le chercher, moi, je fais tout pour aller le chercher.
LM Forever, merci de suivre ce podcast. C'est super sympa. Par contre, tu viens de proposer Mahrez et ensuite Morata en neuf. Je crois qu'on est en 2024 là, frérot.
Non, mais Morata, non. Non,
Ah, c'est pour ça que
vraiment.
ça parlait de Mahrez dans le chat. Ah ouais, non, mais
Oui,
Mahrez,
parce que
faut
est-ce qu'il
pas
a dit
abuser.
Mahrez, maintenant il a dit Morata. On est en
Non,
2024.
Morata, non.
Peut-être que tu aurais proposé ça en 2017. Je t'aurais dit, ouais. Là, ça y
Alors,
est.
sous Luis Enrique, Morata, en plus, tu parles du mec qui est tellement performant en tant que neuf que Luis Enrique a préféré foutre Asensio et Olmo à son poste?
Et puis pour parler rapidement de la Sociedad aussi, parce que j'ai vu qu'ils s'étaient fait fouetter à domicile face à Villarreal. Alors bon, déjà, ils perdent quand même pas mal de joueurs hein, ces derniers temps. Ils doivent enchaîner. Forcément, quand tu perds des joueurs, bah, tu as le banc aussi qui joue beaucoup et du coup, bah, tu as moins de solutions, moins de turnover. Je trouve que on en fait... Il y a un traitement, mais ça, c'est toujours le traitement PSG. Au début, au tirage, on nous dit la Sociedad, c'est le meilleur football d'Espagne. La Sociedad, ce n'est pas le tirage que vous pensez. La Sociedad, MDR, les Parisiens, vous allez voir quand il y aura le match, ce sera autre chose, etc. Vous allez encore vous faire sortir. Continuez à sous-estimer l'adversaire. Et puis aujourd'hui, tu bats la Sociedad 2-0. Ah bah la Sociedad, en fait, c'est devenu une équipe pourrie. La Sociedad, c'est un club de merde. La Sociedad, c'est à la hauteur de Copenhague, etc. Non mais... Les gars, sur la phase aller de 8e, on est le seul club à avoir gagné par 2 buts d'écart avec Manchester City. Ouais. Et il y en a encore qui viennent me dire « Ah non, mais c'est normal, Paris et City, ils ont tiré des clubs de merde. » Mais je croyais que c'était le meilleur football d'Espagne, je ne comprends pas. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, la Lazio, c'est quoi ? Le Bayern ne doit pas battre la Lazio, normalement. PSV Eindhoven face à Dortmund, c'est quoi ? Donc, et j'en oublie sûrement, hein, parce que le Napoli, c'est pareil, ils sont au fond du trou ces derniers temps, personne 1-1. Ne s'entend dans le vestiaire, et ils font 1-1, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc la Sociedad, c'est bon, on a compris, vous retournez votre veste, d'abord c'est un club pourri, ensuite c'est un super club, etc., etc., ouais, c'est bon, arrêtez.
Ça me rappelle la hype de l'Atalanta avant qu'on les affronte, la DEA, attention au contre-pressing, le chaos organisé, les mecs nous avaient fait une propagande en mode vous êtes même pas prêts, vous allez vous prendre la douche, on a battu l'Atalanta, d'un coup c'est devenu l'équipe la plus rincée d'Europe. C'est le même constat, Rico. Là, pour le coup, je te rejoins.
Bon, les gars, attention à ce que vous dites, parce que si jamais...
C'est une possibilité, t'inquiète pas.
Ça va faire des capsules de ce que vous venez de dire, vous allez finir dans la sauce sur Twitter. Ok. Il y a une déclaration qui est sortie dans la presse. Il y a Rudiger qui avait dit l'année où Tourelle il est parti, qu'il voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Heureusement pour lui, je dis bien heureusement pour lui, c'est Tourelle qui est venu le rejoindre à Chelsea et ils ont gagné la Ligue des Champions. Est-ce que c'est un grand regret pour toi, tonton, de ne pas avoir eu Rudiger ou pas ?
Pour ceux qui me suivent depuis le tout début du podcast, je ne sais pas si vous êtes nombreux, à l'époque, Nix, on en parlait, je disais que Rudiger était justement un défenseur qui était très complémentaire à Thiago Silva et à Marquinhos, que surtout avec le départ de Thiago Silva, on aurait eu quand même une bonne affaire de récupérer un joueur de ce profil pour seulement 6 millions d'euros à l'époque, hein, parce que c'était ça. Hein. Chelsea nous le vendait littéralement à 6 millions, il y avait accord, Chelsea était d'accord, Tourelle était d'accord, et en fait, Leonardo, à l'époque, a décidé que le défenseur central dont Tourelle avait besoin, c'était Danilo Pereira. Alors bon, je ne sais pas si vous vous rappelez justement à l'époque, Tourelle qui est arrivé en mode « moi je vais mettre Danilo en défense et Marquinhos au milieu, histoire de bien casser les couilles ». Moi, je pense que ça aurait pu être une bonne idée, dans le sens où c'est un joueur qui a de l'abattage, c'est un joueur qui est énervé, tu vois, et qui apporte de la grinta qui nous manque, tu vois. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'était ça. il aurait pu faire du bien à une époque, on l'a raté, c'est comme ça, et je pense que ça fait partie des joueurs qu'on a ratés, et on ne saura jamais s'ils auraient réussi au PSG ou non, mais en tout cas, au moment où on a cherché à le recruter, il avait les qualités dont on avait besoin, et peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui, au final.
Rico. Bon, Rudiger, pour moi, c'est comme l'a dit Tonton, ça aurait été une charnière idéale avec Thiago Silva. Tu as vraiment un Thiago Silva top, on va dire, libéraux, et tu as un Rudiger top stopper. Je pense qu'aujourd'hui, Rudiger fait partie des joueurs, parce que j'ai vu mentalité dans les commentaires. Rudiger, ça fait partie des joueurs comme un peu Bruno Guimaraes, qu'on a pu voir face à nous. Ça fait partie des joueurs que tu n'aimes pas avoir en face de toi, mais que tu aimes bien avoir dans ton équipe. Et pour moi, Rudiger, clairement, c'est un des top stoppers au monde, vraiment. Il a toutes les qualités. Quand tu es attaquant, tu n'as vraiment pas envie d'avoir Rudiger sur les côtes pendant 90 minutes. C'est un défenseur qui, pour moi, est très sous-coté parce que peut-être que des fois, on peut critiquer, on va dire, ses qualités balle au pied, ses qualités techniques et encore, qu'il est très bon, même en termes de vitesse. C'est un joueur qui est très rapide. Et c'est clair que je pense que Rudiger aurait fait du bien. Maintenant, il est blessé au Real, il y a pléthore de blessures, donc bon, c'est fini, hein, le passage est terminé, on a raté l'occasion, mais c'est clair qu'il aurait pu faire énormément de bien, et puis même en termes de mentalité, c'est quelqu'un qui aime pas la défaite, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, et c'est quelqu'un qui aurait pu ramener un supplément d'âme à cette équipe-là.
D'accord. Il y a quand même un match demain, donc on va parler du match qui opposera le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. Restez avec. Avant-match PSG-Rennes, les gars, c'est quoi vos compos pour demain ainsi que votre prono? Vas-y, Réco.
Prono PSG-Rennes?
Ouais, plus ta compo.
Mon prono, alors Rennes a mis quasiment son équipe type, je crois, jeudi là. Donc, à mon avis, je pense qu'on va gagner, surtout qu'en plus on est au parc. Je pense qu'on. Allez, je dirais une victoire 2-0, voire même 3-0. Je pense que. Je vois une belle victoire. Une belle victoire et je pense que Rennes sera très fatigué. Donc, je dirais ouais, 2 ou 3-0. Et au niveau de la compo, on a Marquis qui est absent, je crois. Marquis absent. Je pense qu'on aura un Lucas Hernandez à gauche avec Beraldo Danilo en charnière. Hakimi à droite et un milieu de terrain. Le milieu de terrain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il change tout le temps. Donc, on pourra peut-être voir encore un Kanginli titulaire qui revient ou Asensio dans ce milieu. Enfin, j'en sais rien, je pense qu'il y aura sûrement Warren. Après, qui va jouer 6? Est-ce que ce sera Vitinha ou Ugarte? Est-ce qu'on reverra Ruiz? Enfin, ouais, le milieu de terrain, je peux pas me prononcer. Et après, au niveau de l'attaque, je pense que Mbappé était benché au match d'avant, non?
Ouais.
Ouais, donc je pense qu'on reverra Kylian titulaire dans un grand match en plus. Donc, je vois le trio Dembélé, Barcola et Mbappé. Et par contre, le milieu de terrain, ouais, j'en sais rien du tout.
T'as donné ton prono ou pas?
Ouais, 2-0 ou 3-0.
Okay. Vas-y, tonton.
Bon, moi je pars sur un 4-3-3, bon, enfin 3-4-3, 4-3-3 modulable, vous connaissez à force Luis Enrique. Moi je pars sur un Donnarumma dans les cages, je pense à comment qui s'appelle, Hakimi à droite, défense centrale avec Danilo et Beraldo, je vois Lucas Hernandez à gauche parce que Nuno Mendes n'est pas encore revenu pour moi. Au milieu, c'est le plus compliqué, je suis d'accord avec Rigoba parce qu'il y a beaucoup de possibilités, tu peux faire jouer énormément de joueurs. Je vois Asensio au milieu de terrain avec Vitinha et Ugarte en ce qui me concerne. Je pense que Warren va souffler un petit peu, ce serait pas mal pour lui. Dembélé à droite, parce que bah, tant qu'il est en forme, tu lui fais taper du temps de jeu. Mais tu as une certaine rotation avec lui, donc je ne serais pas étonné de voir Mayulu avoir un peu de temps de jeu. En attaque, bah, forcément, Kylian Mbappé, il a été benché justement contre Lille. Et ce n'est pas facile de bencher ce genre de joueur. Avant, tu pouvais utiliser le prétexte de la blessure, mais là, ça ne marche plus. Donc, il va vouloir jouer et mettre des stats. Et du côté gauche, je pense que ce sera Bradley Barcola, titulaire, qui s'impose vraiment comme le titulaire à ce poste, qui a littéralement explosé cette saison. Donc je pense qu'on va partir sur cette compo avec possiblement des changements au cours de match pour faire souffler un peu, vu que la Ligue des Champions, c'est dans pas trop longtemps. Donc je m'attends à avoir du Kanginli rentré, du peut-être Seni Mayulu, qui peut avoir du temps de jeu aussi, qui intéresse un peu Luis Enrique. Peut-être que Warren fera une sortie de banc, mais je pense que oui, il va un petit peu faire tourner tout en donnant du temps de jeu à ceux qui en ont besoin.
Comme PSG, je n'ai pas des yeux en mode tortue. Tonton et Récoba ont déjà vu mes yeux. C'est juste que je suis un mec discret. Donc voilà. C'est tout. Arrête Colo par pitié. Je ne sais pas qui sera titulaire. Peut-être que Colo sera titulaire. Je ne sais pas. Peut-être que ce serait bien de laisser un peu
Ramos. Pour moi, il doit jouer sur l'aile Colo s'il joue. Il faut arrêter de le faire jouer neuf. C'est. Tu prends pas service.
De toute façon, s'il y a Mbappé, il y aura que les ailes disponibles, que ça soit pour Ramos ou.
Ah, mais ça, c'est clair.
Je serais même pas étonné de voir Colo jouer à la place de Barcola ou à la place de Dembélé. Hein. Franchement, c'est une vraie possibilité. De toute manière, le 11 de Luis Enrique, on ne peut jamais le deviner. Donc, on n'est jamais à l'abri de 2-3 changements et je pense qu'il va y en avoir. Donc,
Alors, mon OnlyFans, il coûte 99 euros par mois.
Ah ouais, et c'est un business qui rapporte.
Et vous et vous pouvez voir mes yeux dans ce compte OnlyFans. Donc voilà. À la limite, si vous likez assez et qu'on tape les 1 million d'abonnés, il y a moyen que je retire des lunettes. Mais bon, vu que ça ne va pas se faire, je ne prends pas trop de risques.
Moi, je dis, on poucave le blast de Nyx à partir de 50 000 abonnés, pas moins.
Mais tu connais même pas mon blast.
Mais ça, fallait pas le dire, espèce de champion.
ok. Ah, Tony B, il a dit « Take my money
bah, ». Lui, il a depuis le début, pour le coup.
Je t'envoie le lien dans les commentaires.
Des yeux.
Ah, lui, il est là depuis le début, pour le coup. Exactement, okay, il est mystérieux. Il fait comme C-Boy, il fait…
Je suis comme les Daft Punk. Ils ont
C-Boy, tu crois qu'il faisait quoi? Oui. Il avait une cagoule, mon pote, Anonymat.
ils ont pris leur argent et après ils sont barrés, ils sont sur une plage, personne n'y connaît. Ça, c'est le meilleur plan du monde. Parce que souvent, je vois des mecs qui disent « Ouais, moi, je veux être riche et tout ça. » Mais une fois que tu es connu, après, regardez le nombre de streamers et tout ça qui se font, ils se font braquer chez eux, ils se font cambrer. Il y a encore un autre, il y a 3 jours, il s'est fait ligoter. Moi, si je vois, je fais ça et un jour, ma famille, elle se fait ligoter, je vais me dire « Mais pourquoi tu étais sur Internet? T'es con, quoi. » Bref, dans les étoiles, qu'est-ce que j'avais mis comme question? Il y a qui t'a dit Rico, je vais te poser une question. Mercato avec Guimarães, Paqueta, Yoro, Osimhen, t'en penses quoi? Est-ce que ça te paraît réaliste? Une bonne chose si ça se produit?
Oui, une bonne chose si ça se produit. Oui, réaliste, non. Réaliste, non, parce que ça te coûtera beaucoup trop cher. Là, tu as 4 mecs qui te coûteraient plus de 100 millions chacun, sauf Yoro, mais qui t'en coûterait 70, à mon avis. Donc, ça me paraît quand même très compliqué. En plus, tu vas chercher 2 mecs en PL. Je pense que déjà, aller chercher Guimarães, ça va être très compliqué. Mais ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas impossible. Donc, allez, si on en a déjà 2 des 3, ce sera déjà très bien. Mais après, oui, c'est sûr que ce serait pas mal. Ouais. Dans tous les cas, c'est 4 profils qui nous manquent. Donc, volontiers.
Autre question pour Tonton cette fois-ci. Wissoubarn qui te demande, est-ce que le côté gauche va devenir plus fort que le côté droit ? Avec le retour de niveau.
Plus fort, je sais pas. En tout cas, je pense que tu peux être de niveau équivalent dans le sens où avec Nuno Mendes, Barcola, tu auras quelque chose de super intéressant. Mais après, ça va dépendre de qui sera le milieu qui va jouer là. Parce que si tu fais revenir Xavi Simons, par exemple, et que tu le mets justement dans ce trio, un petit trio Nuno, Xavi Simons, Barcola, je pense qu'avec la comparaison avec Dembélé, Warren et Hakimi, tu ne seras pas si loin. Donc, super question, je ne suis pas capable d'y répondre. Mais en tout cas, ça pourrait te permettre d'avoir 2 côtés super intéressants, en tout cas.
Non, bonsoir, oui, évidemment que oui, il va devenir plus fort. Tu as Nuno Mendes et Barcola, c'est 2 joueurs exceptionnels, 2 joueurs très justes surtout, très intelligents. Et je pense qu'ils ont le potentiel pour être meilleurs que le côté droit, qui est déjà très bon, mais qui aussi, c'est vrai, a l'avantage de jouer avec Warren de leur côté. Et forcément, combiner avec Warren et avoir l'aide de Warren, c'est plus facile. Donc, c'est vrai que ça dépendra aussi de qui va jouer à gauche avec eux. Ce sera très sûrement Vitinha, je pense. Mm-hmm. Donc, à voir comment ça se passe. Mais en tout cas, les deux, pour moi, Nuno Mendes et Barcola, ont le potentiel d'être clairement meilleurs que le côté droit.
Je pense aussi, franchement, ça va être mieux. Il y a Kernito Recoba qui te dit, faut-il pas laisser sa chance à Ramos au lieu d'aller encore prendre un attaquant cet été?
Si, personnellement, à part si tu arrives à faire, et je dirais même pas Osimhen, à part si tu arrives à faire franchement Alvarez ou Lautaro Martinez, et encore, bah, personnellement, je laisserai sa chance à Gonçalo Ramos. On a vu quand même des prémices de quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui a, je pense, de la continuité, pourrait être vraiment très bon. Il a de vraies qualités de buteur, il est au service du collectif, il défend. Il a beaucoup, beaucoup de qualités, il a de l'intelligence dans son jeu, c'est quelqu'un qui techniquement aussi est bon, contrairement à ce que certains veulent nous faire penser. Donc je pense que, sachant que ça va être quand même compliqué d'aller lâcher 4 ou 500 millions d'euros sur le mercato, je pense que la priorité est autre part, au milieu de terrain notamment, et peut-être derrière aussi. Offensivement, on a quand même beaucoup de joueurs, et personnellement, je ferai quand même confiance à Gonçalo Ramos. Le seul problème, c'est que visiblement, Luis Enrique et peut-être le board aussi n'a pas l'air d'avoir confiance en lui, donc c'est plus ça le souci, mais personnellement je lui ferai confiance et je pense qu'il peut réussir dans ce PSG.
Ok, Tonton, il y a LM Forever qui trouve que le Paris Saint-Germain manque de physique. On parle beaucoup de lacunes dans les coups de pied arrêtés, mais dans les pistes de recrutement on dépasse très rarement les 1m85. Est-ce que tu penses qu'on devrait se pencher là-dessus cet été?
Ça dépend du poste auquel tu recrutes, en fait, dans le sens où manque de physique. Le milieu Sergio Busquets, Iniesta, Xavi, j'aimerais bien que tu me dises lequel des 3 a porté de la protéine dans ce milieu à 3. Aucun. Cette équipe a soulevé l'Europe avec du Pedro, du Messi, du Villa. Il n'y en a 2014. Mais il n'y en a aucun qui soulevait 30 kilos développé couché, c'est un fait. 2014. À un moment, on s'en fout de ça. Moi, ce que je dis,
football,
c'est
y a des postes de 2014, Tonton.
Mais t'inquiète qu'avec la même équipe, il te soulève quand même l'Europe, Pep, en 2023. Mais du coup, pour revenir à ça, c'est pas qu'une histoire de taille, c'est une histoire de profil. Il y a des postes où oui, je prendrais un peu de taille, tu vois. Si tu me dis notamment le 9, parce qu'on joue dans un jeu où on a beaucoup de centres, si tu prends un 9 qui n'est pas grand et pas bon de la tête, ça n'a aucun intérêt. Si tu me dis que en défense centrale, parce que notamment on n'est pas bon sur les duels défensifs aériens et nos points faibles, c'est aussi les coups de pied arrêtés défensifs, là oui, je vais te prendre un DC qui est bon dans le domaine aérien et qui plus est un peu grand, une tourelle de contrôle à la Ibrahima Konaté, là pas de problème, tu vois. Mais si tu me dis prendre grand pour prendre grand, aucun intérêt. Regarde Ruiz, il est gigantesque et il est nul dans le domaine aérien, il est nul au physique, tu vois. Donc moi, c'est pas que la taille qui compte, et genre, je ferai pas d'autres analogies, tu vois. Mais c'est plus une histoire de à quoi te sert ta taille dans ton style de jeu. Parce que si t'as un style de jeu où genre t'es grand mais ta taille te sert à rien, je vois pas l'intérêt d'être recruté parce que t'es grand. Si ta taille elle te sert à quelque chose du genre t'es Lenny Yoro ou Ibrahima Konaté, là y a pas de problème, je vais prendre en compte l'histoire de ta taille, tu vois. Mais c'est justement ça, Guillaume, c'est toujours une histoire de comment s'en servir de la taille.
Yaya, dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu es en train de cuisiner pendant que tu nous écoutes. Et ceux qui nous écoutent sur des plateformes de podcast, merci à vous. Par contre, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous parce que vous êtes nombreux à écouter sans vous abonner. C'est important pour nous. Prochaine question. Que pensez-vous de Todibo Rekoba?
Non, c'est pour toi cette question, Nix.
Je suis d'accord sur le. Juste Todibo, j'en reviens, mais juste par rapport à Manchester City, c'est vrai qu'au-delà de la taille, il y a quand même cette dimension physique que beaucoup de joueurs ont et qui, par rapport au football de 2014, comme disait Nix, est très important. Et c'est vrai que ce n'est pas la taille qui compte parce que quand tu vois des Ruiz, etc., bah, au final, ils sont nuls dans le domaine aérien. Je pense qu'un Guimarães qui est beaucoup plus petit sera beaucoup plus imposé grâce à son physique dans le duel aérien. Et puis, on le voit avec Marquinhos, hein, qui est très bon dans ce domaine-là et pour autant n'est pas le plus grand des défenseurs. Donc, c'est surtout, on va dire, un ratio. D'être très bon dans le domaine aérien, avoir une certaine densité physique plutôt que seulement la taille. Et puis pour Todibo, personnellement, je préfère Lenny Yoro. Donc s'il faut lâcher une quicheta, je préfère aller chercher Yoro. J'ai du mal avec Todibo. Je le trouve bon. Je trouve que c'est un très bon défenseur. Maintenant, je trouve qu'on en fait beaucoup. Je pense qu'il est bien aidé aussi par un collectif qui défend très bien. Par des latéraux qui défendent bien, par un Dante qui est toujours aussi bon malgré son âge. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ce PSG-là, ce serait une valeur ajoutée? Je ne sais pas. Je pense que oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer. J'ai un petit peu du mal avec Todibo, moi.
Moi, j'arrête de m'avancer sur les joueurs parce que c'est le Paris Saint-Germain. J'y arrive plus. Je me suis avancé sur Randall. Mais tu vois bien que le contexte Paris Saint-Germain, c'est la première fois que je vois vraiment ce que c'est le contexte du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a des joueurs, t'auras beau être bon, quand t'arrives dans cet environnement, tu peux t'effondrer, mais en claquement de doigts comme ça. Parce que je vois bien, il y en a plein, vous allez me dire, ouais, Randall, si ça n'a jamais été un top player. Mais je suis désolé, ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas le niveau du Randall que je connais. Même quand je le voyais jouer avant, il était bien meilleur que ça. Donc, il y a une dimension, et on l'a vu notamment peut-être avec Vitinha aussi, etc. Donc, Todibo, franchement, avec ses qualités, j'ai envie de te dire, oui, tous les jours. Parce que c'est clairement le type de joueur qui nous manque, il est bon dans la relance, il est bon dans les duels, que ce soit physique, en contre un, et que ce soit dans les duels aériens, il est bon. Sur le papier, c'est parfait. Après, est-ce qu'il va s'acclimater à Paris? Parce qu'à Barcelone, il a eu du mal. Frère, c'était peut-être pas que lui le problème. Est-ce que dans un grand club, il pourra avoir le niveau? Ça, je ne sais pas. Donc, je ne peux même pas vous dire si c'est une bonne idée ou pas. Oui, tonton. Si jamais l'AS Monaco se fait racheter par les Saoudiens, peut-être que Bernardo Silva, il dira peut-être qu'un retour à Monaco, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est une bonne question. C'est son ancien club. Ça s'est bien passé pour lui là-bas. Il n'est pas parti en mauvais termes. Bonne question. Je pense que honnêtement, Bernardo Silva, il est arrivé à un moment de sa carrière où je pense qu'il va beaucoup écouter sa femme parce que sa femme a fait des sacrifices à aller vivre à Manchester pendant des années quand même, 7 ans. Et elle n'a pas kiffé sa vie là-bas. Donc je pense que si madame lui dit « Écoute Bernardo, c'est sympa Paris, mais moi je retourne à Monaco », lui, il ira à Monaco, je pense, tu vois. Donc ça reste une vraie possibilité et ouais, c'est un vrai risque pour le PSG. Alors non, ouais, ça c'est Saliba et Gonçalo Ramos aussi au passage. Non, faut pas tromper de joueurs, sinon ça s'appelle de la diffamation. Donc exactement, comme le dit Aoki aussi, Aoki a raison, il faut un moment doser sur les messages bof. On veut bien rire un petit peu les gars, mais soyez quand même un petit peu.
C'est la pression des grands clubs, ouais. Rekoba, on prend pas à voir si Hakimi part, est-ce que Moukielé on le vend?
Bah, Moukielé, à partir du moment où tu comptes pas sur lui et que tu le fais pas jouer, oui, autant le vendre, surtout s'il y a des offres. On a vu le Bayern dessus cet hiver. Je pense qu'il manquera pas d'offres cet été. Donc, dans la mesure où tu t'en sers pas, autant le vendre et aller chercher une doublure à Hakimi s'il reste, qui soit plus Lucho compatible, comme on dit. Parce que c'est vrai que garder un joueur dont tu ne te sers pas, ça sert à rien, d'autant plus qu'il a une valeur sur le marché. Et puis, c'était quoi le début de la question?
On parlait de quoi là? Je sais même plus. Bref, une autre question, je me rappelle. depuis tout à l'heure, il y a Perry Colosi qui arrête pas de dire pourquoi vous parlez pas de Zirky. Aucune idée. Qui veut.
Joshua Zirkzee. Tu regardes pas parce qu'il regarde Bologne. Parce qu'il faut être honnête.
Thiago Motta, ça.
C'est ça, faut être honnête. À un moment, c'est est-ce que tu as le temps de regarder la terre entière? Moi, non. Donc, moi, je parle de ce que je connais. Si je parle pas, bah, c'est que je veux pas t'induire en erreur et te raconter des conneries comme certains youtubeurs font. Donc, si tu veux, je peux te raconter n'importe quoi pour te faire plaisir sur Zirkzee. Sinon, on peut dire qu'on n'a pas le temps de voir Bologne et à ce moment-là, on dit rien.
Ouais, c'était pas avare le début de la question, donc j'ai envie de te dire non. Puis en plus, il est très bien à l'Inter. Donc, après, en fait, ça dépend ce que veut faire Luis Enrique. Si tu veux jouer avec Nuno Mendes très haut et un mec à droite beaucoup plus bas, pourquoi pas aller prendre un joueur qui ressemble, on va dire, à Pavard. Mais je pense pas qu'il faille prendre Pavard. Et puis en plus, il vient d'arriver à l'Inter et il y est très bien. Donc je pense pas que Pavard arrive. Et puis pour Zirkzee, oui, c'est vrai que c'est pas évident de suivre tous les matchs et de suivre Bologne. En attendant, il fonctionne très bien à Bologne. Maintenant, c'est comme les joueurs de Leverkusen. Un Grimaldo, un Boniface ou d'autres fonctionnent très bien dans ce Leverkusen-là. Est-ce qu'il fonctionnerait ailleurs dans des clubs où c'est plus compliqué, où il y a beaucoup de pression ou dans des collectifs qui tournent moins bien? C'est une possibilité que non. Donc, Zirkzee fonctionne très bien aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il fonctionnera chez toi comme il fonctionne là-bas? C'est une interrogation.
Pourquoi Julian Alvarez, c'est totalement inaccessible pour moi, c'est tellement fort.
Ouais, je pense Pep ne le lâchera pas.
Ah oui.
Oui, c'est une finale, mais Pep ne le lâchera pas.
Tonton, ouais, est-ce que tu prendrais 2-6, De Jong et Guimaraes par exemple?
Alors, les deux ne sont pas des 6. Ils peuvent jouer 6, hein, il n'y a pas de problème, ils savent faire, mais ce n'est pas des 6 à la base. Mais ils savent le faire. Mais en l'occurrence, si tu peux prendre un 6 Lucho compatible titulaire, oui. Totalement. Si tu me dis que Lucho, il veut De Jong ou Guimaraes et en faire son 6 titulaire, oui. Je veux dire, le problème qu'on a aujourd'hui, et je pense que j'en ai parlé dans plusieurs podcasts, c'est qu'au niveau du 6 du PSG actuellement, c'est soit on a le 6 qui est bon avec le ballon et fait ce que demande Luis Enrique en la personne de Fabian Ruiz, mais qui du coup est incapable de faire défensivement et sans ballon ce que demande Luis Enrique. Soit on a ce joueur en 6 qui fait ce que veut Luis Enrique défensivement et sans le ballon en la personne de Manuel Ugarte, mais qui techniquement n'est pas Fabian Ruiz et du coup ne fait pas ce que demande Luis Enrique. Donc, dans l'idéal, ce serait bien de faire une fusion des deux et d'avoir ce 6 que demande Luis Enrique. Oh là là, question d'avant, j'aime beaucoup Dusan Vlahovic. Mais voilà, je pense que oui, il faut un 6 Lucho compatible titulaire. Alors, c'est quoi un 6 Lucho compatible Moscou pour te répondre? C'est un 6 qui, techniquement, est capable de ressortir le ballon sous pression et qui, défensivement, va faire le taf. Alors, Rodri, c'est l'idéal, mais Rodri, on ne le fera pas. Il existe d'autres profils, il y a du Zubimendi, il y a du Bruno Guimaraes, Frankie de Jong peut être une possibilité aussi, même si ce n'est pas un vrai 6. Il y a des possibilités. Après, à voir lequel on ira chercher, mais ça me semble un peu compliqué.
Bah pour moi, De Jong, c'est un vrai 6. Simplement, il n'a pas les qualités défensives d'un 6 qu'on peut attendre d'un 6 moderne. Parce qu'on le voit en 8, quand il a joué en 8 au Barça, il jouait contre nature, ce n'est pas son poste. On sait que ce n'est pas les qualités de son jeu d'évoluer et d'être bon dans les 30-40 derniers mètres. Pour moi, c'est un vrai 6. Quand on le voyait à l'Ajax en 6, il remontait les ballons, il se remettait au niveau du central. Ah si, pour moi, il était 6. Bah, il était quoi?
L'Ajax, si tu veux, c'est le piège. C'est un peu comme le match de Barcelone cette semaine en Ligue des Champions contre Naples. C'est que Frankie de Jong, tu crois qu'il est 6, mais en vérité, il joue en double pivot et il y a un 6 à côté de lui. Il y a Christensen qui a fait le rôle du 6 à côté de lui quand il a joué contre Naples. Et quand il jouait à l'Ajax, il y avait Sean. Sean jouait le 6, lui, il était le 8. Et tu avais aussi Van de Beek au-dessus qui était un faux 10. Qui justement lui pressait. Donc au final, De Jong n'a jamais été un vrai 6. C'était un 8 totalement libre quand il est à l'Ajax. Et quand tu vois à Barcelone ses meilleures performances, je te rejoins, c'est pas un 8 offensif. Et à Barcelone, il est mal utilisé quand il est comme ça. Mais là, il a fait le double pivot avec Christensen et il a fait un match de grand fou furieux avec le Barça. Donc pour moi, double pivot, mais il faut un 6 à côté. Mais il peut jouer 6.
Ok. T'as coupé ton micro, Nyx?
Oui, non, mais justement, Leicester, c'est drôle.
vous êtes écarté de la question. La question, c'était est-ce qu'on ferait les deux en même temps?
C'était financièrement ça, compliqué. Hein.
Non, mais déjà, De Jong, moi j'enlève. C'est bon, De Jong, faut arrêter. C'est comme De Ligt, faut arrêter. C'est bon, ça fait des années.
Il a financièrement posé une autre question. Il a dit, est-ce que pour vous, si on peut faire trois milieux, est-ce que vous prenez trois milieux? Par exemple, Silva, De Jong, Guimaraes. Est-ce que c'est non, pas le milieu pas parfait? Plutôt qu'envoyer 400 millions partout entre l'attaque et tout ça, t'envoies 400 millions, tu prends ces trois joueurs-là, est-ce que ça ne règle pas 80% de tes problèmes?
Bah, c'est très
complémentaire. Bah oui, mais c'est irréel. Et puis, t'as Warren déjà. T'as Warren, t'as Asensio ou Kanginli qui peuvent jouer aussi un peu plus haut. T'as Xavi Simons qui va revenir. Est-ce que tu vas l'utiliser dans le milieu? Ça me paraît énorme. Déjà, en prendre deux, c'est déjà fort, c'est déjà costaud. Ça va te coûter cher aussi. Mais déjà, prendre un mec qui peut jouer 6 et un mec qui peut jouer 8-10, ce sera déjà une bonne chose et ce sera déjà compliqué. Mais après, tu ne peux pas les foutre tous sur le banc. Tu ne peux pas mettre les Warren, les Vitinha, les Lee, les Asensio, les Ruiz, etc., les Ugarte, que tu as recruté cher, que tu payes aussi, qui sont là depuis longtemps, enfin, pour certains deux ans, l'année prochaine trois. Tu ne peux pas tous les mettre d'un coup sur le banc. Tu ne peux pas couper l'ascension de Warren Zaïre Emery. Donc, en prendre deux, ce sera déjà très, très bien. Prendre un vrai 6 et prendre un 8-10, pour moi, ce sera déjà une très, très bonne chose.
Juste, Yaya, bah, on a déjà essayé de faire une rencontre avec vous. Après, il n'y a personne qui a réservé. Donc, au final, c'est pas
attends, il faut que je réponde à ça parce que c'est un truc qui revient tout le temps et qui m'énerve. On n'est pas comptable. Oui. Un, on n'est pas comptable. Deux, c'est pas notre argent. Moi, j'en ai rien à faire que le Paris Saint-Germain mette 400 millions sur un joueur. C'est pas mon argent. Mais sauf qu'il y a un problème, ça s'appelle l'économie. Et aujourd'hui, dans le football, il y a une économie et il y a des règles qui s'appellent le fair play financier. Donc, si tu vas chercher un joueur 400 millions d'euros, tu vas te retrouver derrière avec le fair play financier et surtout, tu vas pas pouvoir... Oui, voilà, et tu vas devoir vendre. Et surtout, tu vas pas pouvoir recruter à certains postes où tu as besoin. Donc, aller chercher un Guimarães, par exemple, à 400 millions, ouais, c'est super. On a Guimarães, ce n'est pas notre argent, c'est top. Sauf que derrière, comment tu fais pour les autres postes où tu as besoin? Bah, tu ne peux pas. Donc oui, on n'est pas comptable, mais à un moment donné, on est obligé d'en parler parce que ça fait partie du football et de l'économie du football.
Ouais, tout à fait d'accord. C'est franchement la phrase qui m'énerve le plus quand je la vois dans les commentaires. C'est pas notre argent.
Faut pas tout confondre, quoi.
En plus, ça te sort des trucs genre, ouais, mais c'est le Qatar. Mais non, ça existe, c'est pas comme ça, le football.
C'est exactement comme ça qu'on a eu la masse salariale précédente.
Si voilà, c'était un moment, comme ça, si c'était le Qatar et c'était fonds illimités, on n'aurait pas Vitinha, Fabian Ruiz avec des champions. Faut arrêter les bêtises, les gars. Si tu mets, je sais pas combien d'argent on a mis pour acheter Mbappé et Neymar, dans les 400 et quelques millions, forcément, derrière, tu vas te retrouver avec des Thomas Meunier, des trucs comme ça derrière. C'est pas possible.
Pas possible Baker.
Baker. Florenzi. Florenzi. Ah oui, ça, c'est revenu dans l'actu. Je ne sais plus à qui j'ai posé la question la dernière fois. Bah, vas-y, t'entends un retour de Rabiot, c'est intéressant pour toi.
Uniquement si tu le fais jouer 6. Si tu le fais jouer 6 et que tu lui demandes d'être ce 6 technique que Luis Enrique a besoin, pourquoi pas? Mais c'est pas ma priorité. Si je peux chercher un autre joueur, je le fais plus tôt. Comme j'ai dit, moi, je vais chercher un meneur de jeu et un 6. Si t'as pas d'autre solution et que le fait d'avoir Rabiot, ça t'évite de faire une saison de plus avec des milieux pas compatibles, pourquoi pas? En revanche, c'est pas ma priorité non plus. On va pas se mentir.
J'ai jamais dit que c'était 400 millions, mais putain, il fait exprès, c'est pas possible. Mais j'ai jamais dit Guimarães, c'était 400 millions. Non, c'est un
Recoba,
exemple pour te montrer.
Recoba, que... je te propose qu'on parle en espagnol parce qu'apparemment, en français, on n'est pas assez bien compris. Étant donné que Kylian Mbappé file vers l'Espagne et que notre coach est espagnol, on devrait peut-être continuer le live en espagnol. Peut-être que là, on se comprend.
Recoba, Frimpong, est-ce que tu le trouves intéressant à la place d'Hakimi?
Oui, ce serait un profil intéressant. C'est un profil offensif qui a des qualités techniques, qui est très, très décisif cette année. Après, encore une fois, il y a une question de collectif. Il marche très bien à Leverkusen. Est-ce qu'il marchera chez toi? C'est une autre question. Mais ça peut être un joueur intéressant pour remplacer Hakimi s'il part. Surtout que, pour le coup, les latéraux droits, il n'y en a pas pléthore. Donc oui, naturellement, tu te dirigerais vers un Frimpong. C'est un petit peu logique, ouais.
Ensuite,
c'est un piston, ouais. Donc, jouer à 4, avoir Nuno et Frimpong, c'est très, très, très offensif.
Très dangereux. Il ne faudrait pas plus se tourner vers un défenseur gauche, nous dit Lucas 93. Hernandez est pisté par le Bayern. Est-ce qu'on ne devrait pas sauter dessus, Tonton?
Non. On a Nuno Mendes. Donc, pour moi, en fait, j'ai cherché un autre joueur à fort potentiel qui peut le concurrencer. Donc, moi, j'avais plutôt parlé d'un Yann Madsen, pour ceux qui le connaissent, qui est en train de littéralement exploser à Dortmund au passage, pour ceux qui ont l'occasion de le voir. Moi, je préfère plutôt prendre un joueur dans ce profil plutôt qu'un Théo Hernandez qui va nous coûter super cher en termes de transfert, va nous coûter super cher en termes de salaire parce qu'il saura à qui il toque au moment de faire sa prolongation de contrat. Alors oui, on aurait les deux frères Hernandez, c'est super, on réaliserait le rêve de Didier Deschamps, mais non, pas là. Si on n'avait pas signé un Nuno Mendes, avant qu'on signe Nuno Mendes à l'époque, oui, on parlait de Théo Hernandez à cette époque-là, et oui, vraiment, à cette époque-là, j'aurais été pour le signer. En revanche, maintenant, on a signé justement notre ami Nuno Mendes. Moi, j'aurais pu chercher un mec comme Yann Madsen, qui est jeune, performant, qui a faim, et qui du coup va réellement concurrencer Nuno Mendes.
D'accord.
Ouais, même plus de likes que ça, mais tu as raison, cher Assemble.
Recoba, tu penses quoi ça pour la saison prochane. Moscardo, Ugarte et un autre 6.
Parce que là, pour moi, il y a
quand même 3-6.
Ça fait beaucoup.
Ouais. Pour moi, il y a une question qui se pose. Je pense qu'on a besoin d'un 6, mais en fait, le problème, c'est qu'Ugarte, il correspond à ce qu'on a besoin défensivement, mais avec ballon, on l'a vu, c'est quand même assez compliqué. Dans les gros matchs, tu sens qu'il y aura sûrement un plafond de verre. Donc, ça me fait chier parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais je pense que si tu veux passer un step et si tu veux aspirer à gagner la Ligue des Champions, tu auras peut-être besoin d'un 6 meilleur. Et moi, c'est mon candidat numéro 1, ça reste Guimaraes. Mais c'est sûr que du coup, si un mec comme ça arrive, bah, tu vas te retrouver avec Moscardo aussi qui va arriver cet été. Donc, bah, personnellement, je prêterai Moscardo ou Ugarte ou Moscardo, mais je prêterai l'un des deux. Je pense que le plus probable, ça reste Moscardo. Qui a 18-19 ans, qui arrivera à peut-être 18-19 ans cet été. Et je pense qu'on pourrait le prêter justement pour avoir une première aventure en Europe dans un bon club de Ligue 1 ou un club comme Monaco, comme Rennes, ou enfin, j'en sais rien, je prends des clubs comme ça au hasard en Ligue 1, ou Lens même. Mais ça pourrait être intéressant de le prêter en Europe pour qu'il ait quand même une expérience en Europe. Mais je pense qu'effectivement, oui, ça pourrait faire embouteillage, surtout qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste. On l'a vu avec Ruiz ou Vitinha, par exemple. Donc ouais, il faudra en prêter un si jamais un gros 6 arrive.
D'accord. Tonton, qu'est-ce que j'ai pour toi?
Je crois qu'il y avait une question sur Xavi Simons me concernant.
Ouais, je l'avais noté. Mais je... Ah oui, il y avait baisse de forme de Xavi Simons en ce moment à Leipzig.
Alors en fait, il faut dire ce qui est au... Parce que... On va parler clairement de Xavi Simons. Le problème de Xavi Simons, c'est aussi, il faut le dire, il joue à Leipzig après avoir joué à PSV Eindhoven. Donc du coup, tu peux te poser la question de est-ce que c'est pas un joueur qui est surcoté parce qu'il performe dans des clubs qui savent faire exploser les jeunes potentiels. La réalité, c'est que moi, l'impression que j'en ai, c'est que Xavi Simons, ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui le voient le moins. Et il faut le voir parce que, bah, tu vois, quand tu parles de Xavi Simons à Leipzig, je trouve ça hallucinant que les gens sont tous capables de reconnaître le talent de Xavi Simons à Leipzig. Vous l'avez tous vu, hein, donc vous regardez les matchs de Leipzig, mais il n'y a personne qui a repéré celui de Dani Olmo. Donc moi, je pense aussi qu'il y a une histoire d'utilisation de Xavi Simons, et il ne faut pas le voir trop beau, ni le voir trop faible. Xavi Simons, il peut jouer milieu offensif ou milieu relayeur dans un 4-3-3. Pour le moment, depuis le début de la saison, il a joué en 4-3-3 comme milieu le plus offensif des trois. Il a joué également dans le 4-4-2 comme milieu offensif, où il interchange beaucoup avec Dani Olmo, parce que certains disent qu'il joue à droite, d'autres qui disent qu'il joue uniquement à gauche. C'est faux. Quand il joue avec Dani Olmo dans le 4-2-2-2 avec deux milieux offensifs, les deux permutent beaucoup. Ça veut dire que Xavi Simons peut autant jouer à gauche qu'à droite sur le plan offensif, et Dani Olmo aussi. Donc je pense que tout simplement, Xavi Simons, pour rester dans les clous, si tu veux le faire revenir au PSG et que tu comptes en faire un milieu offensif et ton meneur de jeu, il n'y a pas de problème, il sera capable de le faire. En revanche, il ne faut pas le voir trop beau non plus et penser que Xavi Simons, il est déjà... top class player et que quand tu vas le faire revenir au PSG, il va faire 30 buts et 30 passes décisives. Attention, c'est comme chaque joueur, il faut être capable de justement le mettre à sa juste valeur, ni trop ni trop bas. Donc oui, Xavi Simons, si tu le fais revenir au PSG, ça peut être intéressant, il pourra jouer faux neuf, il pourra jouer sur les deux ailes comme meneur de jeu excentré, il pourra jouer comme meneur de jeu dans le milieu à 3, mais c'est à nous de bien l'utiliser. Si Luis Enrique a fait en sorte qu'il soit rapatrié au PSG parce qu'il était au PSV Eindhoven, encore mine de rien, bah c'est qu'il compte l'utiliser et qu'il a une idée de comment l'utiliser. Donc moi, je fais confiance à Xavi Simons et à Luis Enrique pour que la connexion se passe bien. Ça dépendra en revanche aussi des autres joueurs qui joueront autour. Mais je pense que moi, il n'y a pas de problème que Xavi Simons sera tout à fait capable d'être titulaire au PSG l'an prochain. Cependant, attention les gars à ce que vous dites sur lui. Commencez pas à trop le brosser, ni à dire qu'il est trop nul. Il y a un juste milieu.
On va arrêter de prendre des questions les gars, parce que ça fait déjà 1h16. On va finir celles que j'ai notées et après on va y aller. Je vais prendre celle-là vite fait. Tomiyasu d'Arsenal, plutôt pas mal. Par contre, je pense que je le mettrais en doublure d'Hakimi plutôt que titulaire, par exemple. Avoir un top 6 et un top 8, est-ce que c'est OK pour vous? On revient sur Guimaraes Bernardo. Bon, il reste deux questions. Réco, est-ce que pour toi, tous les joueurs brésiliens qu'on prend, est-ce que le Portugal est une bonne destination pour qui s'aguerrisse en Europe? Parce que tu arrives dans un pays où tu parles la même langue, il y a peut-être plus de facilité pour l'adaptation. Après, le championnat peut-être aussi se ressemble plus à ce que tu as connu. Est-ce que c'est pas le bon tremplin? Tu les prêtes là-bas et après tu les récupères en Ligue 1?
Si, si, si. Puis il y en a beaucoup qui jouent là-bas d'ailleurs et après qui viennent autre part. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne idée. Puis en plus, Braga est notre club satellite, si je me trompe pas. Donc ce serait une bonne idée de le prêter à Braga. On a vu Tchernendour d'ailleurs qui a marqué au dernier match, si je me trompe pas. Donc ça peut être une bonne destination pour lui. L'intégration se fera beaucoup plus facilement. Il parle la même langue. Donc ouais, si jamais on doit le prêter, je pense que Braga serait le club idéal. Ouais.
Et pour finir, la dernière question.
Ah, et pour revenir sur Xavi Simons, juste j'ai vu un commentaire dessus, comme quoi c'est lui qui décidait ou je sais pas quoi, jusqu'à preuve du contraire, il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain et prêté à Leipzig. Donc si Paris veut le faire revenir et compte sur lui l'année prochaine, il sera chez nous l'année prochaine. Hein. C'est pas lui qui décide.
Ok. Dernière question, les gars, c'est la question de la Mitouche Bachir, que d'ailleurs je salue, qui nous regarde régulièrement. Le Paris Saint-Germain a beaucoup snobé la Ligue 1. Pas mal de joueurs qui sont passés par la Ligue 1 n'ont pas été repérés et ensuite on veut aller les récupérer. Donc pour cet été, quel joueur de Ligue 1 vous iriez chercher? Dernière question du live, vas-y Tonton et après Réco.
Très facile, Lenny Yoro. Je passe la parole à Réco. Bonne chance pour trouver un différent.
Il ne peut pas dire Lenny Yoro.
Non, pour jouer à droite, mais le problème, c'est qu'on a pas mal d'ailiers, mais si jamais, par exemple, sur un lit vraiment au milieu de terrain, ouais, t'as Zegrova qui peut être intéressant dans la rotation avec Dembélé. Après, ça dépend aussi si tu fais venir Xavi Simon, c'est que tu comptes sur lui plus sur le côté gauche, parce que justement, si jamais Dembélé n'est pas là, tu places Barcola à droite et tu mets Xavi Simon à gauche. Donc, si jamais tu as besoin d'une concurrence, par exemple à Dembélé, je pense que Zegrova pourrait être une bonne chose. Après, en défense centrale, il y a Medina aussi, parce que je vois souvent Danso revenir, mais pour moi, le meilleur central à Lens, ça reste Medina. Qui c'est qu'on peut avoir aussi d'intéressant derrière? Il y a des latéraux. Je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais on parle d'une doublure d'Achraf Hakimi. Mais Jonathan Clauss, qui est en délicatesse dans son club, il pourrait être pas mal. Hein. Pour le coup, il est bon. Après, je sais que voilà. Mais si on parle uniquement des joueurs, on ne prend pas le club, etc. Si on prend le niveau du joueur et ce qu'il pourrait apporter, je pense qu'un Clauss en doublure d'Hakimi, ce serait cohérent. Après, c'est un Marseillais, donc voilà. Mais il y a des bons joueurs en Ligue 1. Et moi, de toute manière, comme je dis, les cracks de Ligue 1, les bons joueurs de Ligue 1, il faut toujours prospecter d'abord parce que je t'ai chez toi. Parce que tu as des solutions en Ligue 1 et on le voit. Non, tout, ouais. Le nombre de joueurs qui font le bonheur des clubs étrangers de Ligue 1, à un moment donné, regarde d'abord dans ton championnat.
C'est vrai que la piste Désiré Doué qui a été mise dans le chat, bon, il a écrit Moué, mais j'ai compris qu'il voulait mettre Doué. J'avais oublié, mais mine de rien, piste assez intéressante aussi.
Ok, bah écoutez les gars, ce fut un très bon live. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. J'espère que vous avez liké, parce que là, je n'ai pas vérifié, je ne vous ai pas fliqué. Mais les gars, je compte sur vous, j'espère que vous avez liké, abonnez-vous aussi, ça nous aide énormément, et restez connectés, débrief demain Tonton, c'est ça?
Demain 19h05,
ok, et ensuite prochain podcast mercredi comme d'habitude, ouais, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va modifier le podcast du mardi au mercredi, parce qu'on n'a plus autant de gens, notamment Tonton qui parfois travaille, donc voilà. Sur ce, bon samedi, bon week-end, bon match demain et n'oubliez pas que ici c'est
Paris. Paris.